Vous écoutez Europe 1, il est 18h.
On n'avait pas vu ça depuis 1991. J'ai connu des décrochages de marché, notamment avec la faillite de Lehman Brothers, avec l'élection de Trump ou le Brexit. Mais c'était pas de cette ampleur-là.
Les bourses mondiales au bord du krach, les signaux alarmistes des répercussions de la crise du coronavirus entraînent un vent de panique sur les places financières internationales. La bourse de Paris s'est effondrée en clôture tout à l'heure de 8,39% à 4 708 points. C'est sa pire séance depuis 2008. Silence, on joue. Déception pour les supporters, notamment ceux du PSG. Le 8e de finale retour de Ligue des Champions face à Dortmund mercredi se jouera à huis clos.
C'est catastrophique pour tout un tas de raisons. Je ne comprends pas. C'est catastrophique.
Un premier cas de coronavirus détecté à Disneyland Paris chez un employé qui n'était pas en contact avec le public. Le parc reste ouvert pour l'instant. Dans ce journal, on détaillera bien sûr les innombrables conséquences des mesures draconiennes prises face à cette épidémie, alors que deux nouveaux décès ont été enregistrés aujourd'hui en Corse et en Auvergne-Rhône-Alpes. Et puis c'était quelques semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes, scène de guerre à la préfecture du Puy-en-Velay, procès aujourd'hui de trois des incendiaires.
Le déclic semble être le moment où il a reçu un flashball. C'est là où effectivement il a perdu son sang-froid et il a dérapé.
Et on voit tout de suite la tendance météo avec vous Anissa. Bonsoir Anissa.
Bonsoir Isabelle.
Ce sera encore maussade demain.
Oui effectivement, avec sur les trois quarts nord du pays, des nuages, de la pluie et du vent. Il n'y a qu'au sud que vous verrez le soleil demain. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Isabelle Millet, Nathalie Lévy.
Bonsoir Isabelle, et c'est donc un vent de panique qui s'est emparé ces dernières heures des places financières mondiales.
Et oui, on va tout de suite retrouver François Geffrier qui est en direct de La Défense près de Paris. Bonsoir François.
Bonsoir.
Vous êtes dans une salle de marché qui vient de vivre une journée complètement folle.
Oui, avec les yeux rivés sur une courbe, celle des prix du pétrole. Un plongeon absolu ce matin, un scénario que les moins de 30 ans ne peuvent pas connaître. Alors la Bourse de Paris a fermé il y a une demi-heure tout juste, mais les traders ici avaient en fait déjà arrêté toute prise de risque. C'est ce qu'explique Tarek El Mari, le fondateur de cette salle de marché Crescendo.
Là actuellement, le marché en fait est un peu sonné. On n'avait pas vu ça depuis 1991.
Mais vous étiez déjà trader à l'époque ?
Non, j'ai 40 ans, donc j'ai pas connu, c'était la guerre du Golfe, j'étais au collège. Mais j'ai connu des décrochages de marché, notamment avec la faillite de Lehman Brothers, avec l'élection de Trump ou le Brexit. Mais ce n'était pas de cette ampleur-là.
Alors pour lui, les montagnes russes qu'on a vues aujourd'hui sont dignes des crypto-monnaies. Vous savez, comme le Bitcoin, par exemple. En tout cas, rien de comparable avec quelque chose de tangible, de concret, comme un baril de pétrole. Son collègue Nabil Berouag, coach trader, n'en revenait pas.
Si on m'avait dit, j'aurais jamais dit, mais non, ça va. Si un mec me dit, il faut vendre du pétrole, ça va tomber 30%. J'aurais dit, laisse-moi tranquille, c'est impossible. Là, on arrive, moins 30. Mais non, c'est... Là, on s'envoie des textos avec Tarek. Hein. On regardait toutes les... Ça s'arrête pas, mais c'est quoi ? C'est la folie. Moi, c'est du jamais vu. Et après, le principe voilà, qu'ils stoppent des cotations comme ça, c'est que vraiment, c'était la panique totale.
Eh oui, car sur les 6 écrans devant lui, il y a des moments où la courbe disparaît. Enfin, elle est toute plate. Ce sont les pauses forcées à Wall Street, suspension des cours. Au global, ici, on n'a pas trop bougé. On compte tirer des leçons de cette journée pour l'avenir.
Merci beaucoup François Geffrier en direct donc d'une salle des marchés en pleine ébullition. Et Emmanuel Duteil, chef du service économie d'Europe 1, nous a rejoint en studio. Bonsoir Emmanuel.
Bonsoir.
On vient de l'entendre, hein, partout c'est la débandade. Hein.
C'est simple, hein, ce nouveau lundi noir sera inscrit dans les manuels d'économie. Pour la première fois depuis la mise en place en 2013 d'un dispositif de blocage, la Bourse de New York a dû suspendre ses activités 15 minutes. Les marchés chutaient de plus de 7%. Juste après l'ouverture. Suspension aussi à Sao Paulo. Il faut voir qu'à Paris, c'est la deuxième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. À Francfort, la baisse, c'est du jamais vu depuis 2001. Milan perd ce soir plus de 11%. Un élément encore qui parle de lui-même. Le VIX, c'est l'indice de la peur hein, sur les marchés, est au plus haut depuis fin 2008.
Alors Emmanuel, on l'a bien compris, c'est la chute du pétrole qui explique ce krach, mais pourquoi est-ce que c'est si important ?
L'Arabie Saoudite s'est lancée dans une véritable guerre des prix. Faute d'accord avec Moscou sur une réduction de la production, ils ont baissé comme ça tout seuls, drastiquement les prix. Ça a cassé complètement le marché. Les valeurs pétrolières comme Total se sont effondrées. Une attaque qui arrive à un moment où l'impact du coronavirus sur l'économie s'annonce énorme. L'Italie est en partie confinée. Le virus se développe aux États-Unis. En France, Bruno Le Maire, le ministre de l'économie, parle d'un impact sévère. Du coup, il y a un véritable vent de panique. La seule bonne nouvelle, car oui, il y en a quand même une, c'est que cette baisse du pétrole va faire reculer fortement les prix à la pompe. Même si on sait tous que dans le sens des baisses, ça va souvent moins vite que dans le sens de la hausse.
Effectivement, dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines, vous le disiez donc, deuxième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. Merci Emmanuel Dutheil, chef du service économie d'Europe 1. Le coronavirus et son impact sévère sur la croissance et sur l'emploi. Le ministre de l'économie annonçait de nouvelles mesures aujourd'hui pour soutenir les entreprises, notamment des dégrèvements d'impôts directs pour celles qui seraient menacées de disparition ou encore le report des charges sociales pour les entreprises en difficulté. Procédure simplifiée, il suffira d'un simple mail.
Et puis coup de tonnerre Isabelle, aujourd'hui également dans le monde du sport.
Et oui, on savait que les rassemblements de plus de 1000 personnes dans un espace confiné étaient désormais interdits. Eh bien, il n'y a pas que les espaces fermés visiblement, puisque l'événement sportif de la semaine, le match PSG Dortmund, 8e de finale, retour de Ligue des Champions au Parc des Princes, mercredi prochain, se jouera à huis clos. Bonsoir Christophe Lamarre.
Bonsoir Isabelle.
Coup dur pour les spectateurs comme pour les joueurs évidemment.
Oui, mais les plus mécontents sont surtout les supporters qui ne pourront pas aller au stade à l'image de Romain Mabillon, président du collectif Ultra Paris.
C'est catastrophique pour tout un tas de raisons, je ne comprends pas, c'est catastrophique.
Alors il n'y a pas que la Ligue des Champions, Christophe, même si c'est très important bien sûr, tout le sport est désormais concerné par des mesures drastiques.
Oui, le monde du sport se doutait bien qu'il ne pourrait pas être à l'abri très longtemps, mais ce matin, la ministre des Sports, Roxana Maracineanu, a fixé le cap.
Dans cette période, le huis clos peut devenir notre doctrine d'organisation des compétitions et du sport professionnel.
Personne dans les stades ni dans les salles. Le mot d'ordre est passé. En football, par exemple, Lyon qui accueille Reims a choisi le huis clos total ce week-end. Même chose à deux pas de là. Villeurbanne, le club de basket, jouera dans une salle vide demain soir. Là encore, c'est un match de championnat. Tous les championnats, toutes les disciplines s'apprêtent à vivre sans supporters.
Merci beaucoup Christophe Lamarre du service des sports d'Europe 1. C'est une bonne occasion pour écouter le sport à la radio. Et vous savez que depuis ce matin, plus de 300 000 élèves se retrouvent privés d'école dans l'Oise, le Haut-Rhin, ainsi qu'à Ajaccio. Fermeture de tous les établissements pour 15 jours. Et des parents qui doivent donc s'organiser pour faire garder leurs enfants. Alors qu'à Paris, un premier cas d'élèves contaminés a été recensé dans le 15e arrondissement. La classe concernée a été fermée. C'est une première dans la capitale. On y reviendra bien sûr dans le journal de 19h. Deux nouveaux décès ont été enregistrés ce lundi. Là en Corse, l'autre en région Auvergne-Rhône-Alpes, ce qui porte à 21 le nombre de victimes. Et puis la politique qui trinque également à moins d'une semaine du premier tour des municipales. La plupart des meetings de campagne sont annulés. C'est le cas à Paris pour ceux d'Anne Hidalgo et de David Belliard. En revanche, Rachida Dati, elle maintient le sien ce soir, mais avec un quota maximum afin de respecter bien sûr la règle des 1000 personnes. Afin que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées notamment, puissent voter sans se déplacer, le ministère de l'Intérieur va autoriser les procureurs à désigner des personnes habilitées à recueillir les procurations. Un directeur d'EHPAD, par exemple, pourrait le faire. Et puis à l'Assemblée nationale, 5 députés désormais sont infectés. Quant au PDG du groupe ADP, Augustin de Romanet, il a lui aussi été testé positif, mais pas d'inquiétude sur son état de santé.
Et puis Isabelle, un premier cas désormais parmi le personnel du parc Disneyland Paris.
Disneyland, où l'on vous retrouve, Hélène Terzian. Un employé de maintenance a été testé positif, Hélène.
Effectivement, il s'agit d'un employé qui travaille la nuit. Il n'est donc pas en contact avec les visiteurs. En arrêt maladie depuis plusieurs jours. Ce n'est qu'hier qu'il a été diagnostiqué positif au coronavirus et certains de ses collègues seraient en ce moment en confinement. Forcément, ici, c'est une annonce qui inquiète les salariés. Lucas Guédab de la CFTC regrette que de nouvelles mesures n'aient pas été prises malgré les sollicitations de son syndicat.
Nous, on accueille quand même une clientèle qui est internationale. Donc effectivement, forcément, ça amène à se poser des questions. Chacun essaye de se protéger au mieux. Alors la direction a mis en place et pour les salariés et pour les visiteurs du gel hydroalcoolique quasiment partout. Maintenant, on a par exemple, on n'a pas de masque. Certains salariés aimeraient en avoir. La direction prend les mesures nécessaires, mais ce n'est pas suffisant parce que l'inquiétude demeure.
Le parc reste en tout cas ouvert et les visiteurs, eux, n'ont pas franchement l'air inquiets. J'ai par exemple rencontré Amélie.
Ça ne nous a pas du tout posé problème. Il y a des gels hydroalcooliques partout, de toute façon. Ce matin, il y a une attraction, ils étaient en train de la désinfecter aussi, les toilettes. Il y a certainement moins de risques de venir à Disneyland, à mon avis, que d'assister à un concert ou autre chose.
Et difficile de renoncer à un séjour prévu ici depuis longtemps à cause du coronavirus. Poursuit-elle, séjour qui dépasse en famille plusieurs centaines d'euros.
Hélène Terzian au parc Disneyland Paris pour Europe 1 à propos de concerts. Justement, le monde de la culture et du spectacle doit lui aussi s'adapter aux nouvelles mesures. Des centaines d'annulations sont en vue. En Italie, un quart de la population est désormais en quarantaine, 15 millions de personnes. Et les médecins obligés de trier les malades, on retrouvera l'envoyé spécial d'Europe 1 à Milan dans votre journal de 19h. Notez que les dirigeants européens tiendront demain une visioconférence pour coordonner leurs actions face à ce coronavirus.
Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1, c'est avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
À suivre dans votre journal de 18h, reportage à Uny, où nous sommes installés ce soir en Meurthe-et-Moselle pour cette quatrième délocalisation avant le premier tour des municipales. Comment redynamiser ces communes? Émission spéciale ici avec nos interlocuteurs, des habitants d'Uny, des commerçants, mais également des gens de la région qui viennent ce soir nous rejoindre ici même. Émission spéciale jusqu'à 20h.
Et puis le procès des incendiaires de la préfecture du Puy-en-Velay, épisode marquant de la crise des Gilets jaunes. Europe 1 est sur place.
Deux heures d'infos pour écouter le monde changer, c'est votre grand journal du soir, jusqu'à 20h. 18h12 sur Europe 1, la suite du journal avec Isabelle Millet et Nathalie Lévy.
Et un grand journal spécial municipal ce soir après Chanteloup-les-Vignes, Mourinques et Langouette. Nous sommes à Uny à l'heure actuelle en Meurthe-et-Moselle, à un quart d'heure précisément de la frontière luxembourgeoise. On va vous parler ce soir de toutes les problématiques que rencontrent ces petites communes, ces villages, déserts médicaux, fractures numériques, commerces qui disparaissent. Uny que vous avez d'ailleurs sillonné pour nous, Arthur Mbaché.
Et le mieux sans doute, Nathalie, pour découvrir le village, c'est de passer une tête dans le jardin de Bernard, dans la ruelle juste là-haut, à gauche. Bernard, 66 ans, dont 63 ici à Uny. Alors parmi les problèmes rencontrés par les gens ici, vous avez l'accès aux soins, on va en parler, et aussi le réseau mobile, on va dire capricieux. Je vois des visages qui disent oui. Écoutez la solution astucieuse de Bernard.
J'ai pas de portable, moi, et j'en veux pas.
Donc les problèmes de réseau mobile...
Ça ne me gêne pas. Le gros problème qu'on a, c'est que nous, on avait un médecin. Et elle est partie au Luxembourg. Ils partent tous au Luxembourg.
Donc vous n'avez plus de médecin ?
Donc on n'a plus de médecin traitant actuellement. Qu'est-ce que vous voulez ?
Bon Bernard, vous avez une grande scie là à la main. C'est quoi votre programme ?
En jardin, ben, je prépare pour pouvoir planter déjà. Hein, parce que d'ici 15 jours, ben, on va commencer à planter tout ce qui est légumes. Quoi. Vous savez, c'est toujours pareil. Hein, c'est une question de moyens. Tout ce qu'on récolte, on n'a pas à l'acheter. Hein.
Alors ici, Nathalie, comme partout dans la France rurale, d'ailleurs, la population augmente, passer de 500 à 750 habitants en 20 ans. Des gens, il y en a, de la convivialité. Bientôt, dimanche, ouverture du café, où on se trouve en ce moment. Le maire d'ici, c'est Robert Bourguignon.
Il ne suffit pas d'avoir de nouveaux habitants, il faut essayer de les intégrer à la vie de la commune. Donc si on veut les faire venir dans la commune, le café, c'est important, c'est vraiment un lieu de convivialité où on peut se retrouver.
Se retrouver entre biquins. Les biquins, c'est le nom des habitants d'Uny. Petit nom, sachez-le, qui vient d'une époque où les gens d'ici, lors de la fête communale, offraient des petites chèvres à leurs invités.
Ah, c'était donc ça. Merci beaucoup, Arthur Mbaché, correspondant Europe 1 dans l'Est. Et on est donc installé là ce soir dans ce café qui va ouvrir ses portes dimanche. Ça s'appelle Resto Bar, tout simplement. La gérante est avec nous. On va lui donner la parole dans un petit instant. À vous tous également qui êtes là. Comment redynamiser ces communes isolées? On en parle ici à Uny avec nos invités et avec vous au 39-21 jusqu'à 20h. Retour maintenant à l'actualité du jour, Isabelle Millet. Le procès de l'incendie de la préfecture du Puy-en-Velay.
Mais oui, vous en souvenez peut-être. C'était quelques semaines après le début du mouvement des Gilets jaunes, le 1er décembre 2018. Quatre personnes jugées aujourd'hui, donc trois seulement sont présentes. Le quatrième a refusé de sortir de sa cellule. Jean-Luc Boujon, vous suivez cette audience pour Europe 1. Alors, ils ont quel profil, Jean-Luc, ces Gilets jaunes ?
Eh bien, on a aujourd'hui devant le tribunal trois profils différents. Un ambulancier en formation âgé de 22 ans, un marginal de 37 ans et un bénéficiaire du RSA d'une trentaine d'années. Mais à la barre, c'est une même stratégie de défense qui est utilisée. Minimiser au maximum leur participation, noyer leur présence dans la masse. Car effectivement, ils n'étaient pas seuls ce jour-là devant la préfecture. C'est une foule en colère qui s'était déchaînée. Alors les faits, oui, ils les ont commis, mais ce sont des faits isolés. Ils n'ont pas fait partie, par exemple, du commando qui a pris d'assaut et incendié la préfecture cet après-midi-là. Ils étaient même venus sur place un peu par hasard, explique maître Nicolas Auget, avocat de Christophe Frémont, l'un des prévenus.
Il explique qu'il est venu par hasard. Ce n'est pas un gilet jaune pur et dur, comme on peut l'imaginer. Je pense qu'il s'est laissé emporter par le mouvement, en sachant que le déclic semble être le moment où il a reçu un flashball, un projet. C'est là où effectivement il a perdu son sang-froid et il a dérapé. Il reconnaît avoir poussé avec d'autres personnes la grille derrière laquelle étaient positionnées les forces de l'ordre. Il reconnaît avoir mis dans le feu devant les grilles de la préfecture une poubelle et il reconnaît avoir jeté une barre de fer en direction des forces de l'ordre, barre de fer qui finalement a atterri dans le brasier. Je pense qu'il le regrette très clairement.
Voilà des regrets pas vraiment exprimés à la barre pour le moment. On attend les réquisitions du procureur d'un instant à l'autre.
Jean-Luc Boujon qui suit donc cette audience pour Europe 1. Un mot encore pour vous dire que le président turc est à Bruxelles ce soir. Au programme, bien sûr, la question migratoire, alors que plusieurs pays européens se déclarent prêts à prendre en charge 1500 enfants migrants bloqués sur les îles grecques.
Merci beaucoup Isabelle Millon. On vous retrouve évidemment à 18h30 pour un nouveau rappel de l'actualité. Anissa, bonsoir. Du côté du temps, ça s'annonce perturbé un peu partout en France demain.
Hein. Oui, c'est exactement ça. Demain, sur le Nord-Pas-de-Calais, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, la vallée du Rhône, le Massif central, le Limousin, la région parisienne, la Bretagne, la Normandie, les Pays de la Loire, le Centre-Val de Loire, vous l'avez compris, sur une grande partie nord du pays, et bien dans toutes ces régions, les nuages seront très présents. Il va même pleuvoir demain toute la journée. Alors au nord de la Loire, sur ces régions aussi, le vent va accompagner la pluie. Il va souffler en rafale jusqu'à 70 km/h. C'est toujours ce vent d'ouest. Hein. En Gironde, sur les Landes et le Lot-et-Garonne, bien là, le ciel sera couvert le matin, mais le temps reste sec et les éclaircies feront leur apparition dans l'après-midi. Et puis des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur et la Corse, donc sur toute la partie sud du pays, et bien là, c'est une belle journée qui vous attend avec un soleil assez généreux. Les températures, elles sont stationnaires. 4 à 8 degrés demain matin, 4 pour Strasbourg, 8 à Paris, et dans l'après-midi, 10 à Aurillac, 12 à Lyon, 15 à Paris, 18 à Montpellier. Et puis je vous rappelle qu'actuellement, nous avons 3 départements, les Landes, la Seine-Maritime et l'Eure, placés en vigilance orange crue inondation.
Europe 1.
Édition spéciale de votre grand journal du soir jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. C'est la quatrième étape de ces émissions spéciales élections municipales. Et ce soir avec vous et avec vos invités, on va parler ruralité, attractivité du territoire. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle à Uny, Nathalie.
Oui, précisément 750 habitants à peine. Cette dernière étape de notre Tour de France zoom sur l'avenir de ces communes, l'épineux problème des déserts médicaux, de la mobilité, de la fracture numérique. Tiens, est-ce qu'ici on parle du coronavirus ? On va poser la question à mes invités. On est ensemble jusqu'à 20h.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy, les élections municipales, quatrième étape de ces émissions spéciales. Vous êtes à Uny, Nathalie, en Meurthe-et-Moselle, pour parler ce soir avec vos invités ruralité.
Oui, pas seulement ruralité, avenir de ces communes de France, l'épineux problème des déserts médicaux, la mobilité, la fracture numérique. On est installé ce soir effectivement jusqu'à 20h dans un café qui nous a ouvert les portes un petit peu exceptionnellement parce qu'en fait il n'ouvrira officiellement que dimanche. Et on est ici avec des habitants d'Uny, cette commune de 750 habitants. Une école, 2 salons de coiffure, c'est tout. Voilà ce que c'est Uny. Mais beaucoup de convivialité et beaucoup de sourires, on le voit ici. Et on est ravis de vous accueillir tous ici autour dans ce studio. On commence avec notre invité expert, Jérémy Pelletier. Bonsoir à vous, bienvenue. Bonsoir. Vous êtes directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Vous nous avez accompagné depuis Paris. Merci d'être là. Bien sûr, c'est Amanda Gargano qui nous accueille ce soir, gérante du Resto Bar d'Uny. Voilà, le seul et unique. Alors merci et bonsoir à vous, Amanda.
Bonsoir.
Bonsoir. Joseph et Christelle Cross qui nous accompagnent également. Bonsoir, bienvenue. Votre fils bon. Également, Lucas, est avec nous. Vous habitez Uny. Vous allez nous dire depuis combien de temps dans une seconde. Et puis nos invités au fil de ces deux heures, un médecin, un enseignant. Et puis vous entendrez bien sûr divers témoignages et vos questions au 39-21. Alors je vais commencer par vous, Amanda, parce que vous avez la gentillesse de nous ouvrir les portes de ce café aujourd'hui. Ce café qui ouvrira officiellement que dimanche. Qu'est-ce que c'est que ce café ? Le seul hein, à Uny, on a bien cherché, on n'a rien trouvé d'autre.
Non, en effet, oui. Donc, c'est un café multiservice où je veux rassembler les gens, leur cuisiner des plats simples, mais bon, m'entourer des producteurs locaux, des produits locaux, et organiser des soirées, des karaokés, loto, belote.
Des événements au fur et à mesure. En fait, ce qu'il faut peut-être préciser, c'est que c'est une opération un peu particulière, oui. Opération 1000 cafés. Expliquez-nous en quoi ça consiste exactement.
Donc, l'initiative vient de Monsieur le maire. Donc, il a déposé la candidature auprès du groupe SOS, notamment le projet 1000 cafés. Nous nous sommes rencontrés une première fois où j'ai expliqué mon projet de vouloir redynamiser un peu le village. Et notre candidature a été retenue. Et puis, nous voilà aujourd'hui.
Alors, je crois qu'il y a eu deux étapes quand même. Une première fois, vous avez tenté, où ça n'a pas abouti.
Et le lendemain, en fait, j'ai rencontré le maire et Hélène, en fait. Du coup.
Alors, voilà, le café, c'est un peu comme le clocher, j'allais dire, Jérémy Pelletier. Un café dans une commune, 750 habitants comme ici à Uny, ou plus ou moins, c'est essentiel, c'est le lien social. Il en manquait à Uny, voilà, à partir de dimanche, ce sera chose faite. C'est une manière de survivre pour ces communes de France dont on parle. Et qui
absolument, c'est essentiel. Ça permet de recréer de la cohésion sociale, des lieux de vie au sein de communes, effectivement, qui peuvent s'en sentir isolées. Au sein de communes, on rappelle, une grande majorité des Français vivent dans ce type de communes. Là, on le dit, unis 750 habitants, la moitié des Français vit dans des communes de moins de 10 000 habitants et 40% vivent dans des communes de moins de 2500 habitants. Donc, c'est très important de recréer, évidemment, du lien, de recréer des lieux de dynamique, des lieux de vie comme vous le faites, pour effectivement des communes qui peuvent avoir le sentiment d'être isolées de plus en plus, et notamment liées à la dépendance à la voiture, dont on parlera sans doute.
Je voudrais vous poser la question, Jérémy Pelletier, pour faire quand même un petit état des lieux, parce que là on est à Uni 750 habitants, on l'a dit, très peu de commerce, on va parler mobilité dans un instant, on va parler fracture numérique aussi. C'est quoi finalement la désertification de nos territoires dont on parle? Qu'est-ce que cela veut dire précisément?
Alors, la désertification, c'est d'abord une désertification en termes d'habitants. On peut aussi parler effectivement d'une désertification en termes de services publics. C'est un impact et c'est très anxiogène parce que, je l'ai dit, on est au cœur de ce qu'est la France. On est au cœur de ce qu'est la France parce qu'on peut dire qu'on a une histoire sentimentale aussi avec nos villages. La France a longtemps été associée à un univers rural, à ses villageois. Le village, la petite ville, la petite commune, c'était un lieu aussi d'enracinement qui comprenait des figures de proximité dont on va parler, le maire, le curé, l'instituteur et le médecin. Et on va en parler parce que justement, l'instituteur et le médecin, quand on parle de désertification, on parle évidemment d'école et on parle de désertification médicale. Donc la désertification, c'est à la fois les services publics et c'est le médecin ou encore l'instituteur.
Et oui. Comment vous vivez, vous, Amanda Gargano, dans cette commune d'Uni? Je sais que vous vivez en fait à 4 km précisément, mais votre quotidien, c'est quand même là, à Uni précisément. Donc on l'a vu, hein, c'est très calme, Uni. Comment vous vivez ici, là, au quotidien, avec 4 enfants par ailleurs?
Ben, c'est simple en fait. Hein. Le matin, on les emmène à l'école et puis après, je passerai ma journée ici. Mon conjoint qui va m'aider et qui va me soutenir et puis ma maman qui va m'aider également pour les enfants et Alison donc, qui travaillera avec moi à mi-temps. Et du coup, pour les médecins, c'est pareil. On reste là. En fait, on les a laissés à Spincourt à l'école. Donc
combien de kilomètres pour avoir le premier médecin?
Nous, on doit faire 15 kilomètres.
15 kilomètres. Alors, on a une autre famille qui est avec nous, Joseph et Christelle Cross, avec votre fils Lucas. Vous habitez Uni aussi, hein, précisément. Je crois, vous, Joseph, vous travaillez à Luxembourg parce qu'on est tout près. On est à peine à une quinzaine de kilomètres.
Oui, c'est bien ça. Ouais.
Merci à vous d'être ici. Vous, quel est votre quotidien et pourquoi vous vous êtes installé à Uni? Pour le calme?
Alors, pourquoi on s'est installé à Uni? Parce que c'est un village qui nous a tout le temps plu. Ma sœur habite Uni depuis bien plus longtemps que moi. Et quand on allait lui rendre visite, c'était quelqu'un qui... Enfin, le village nous plaisait. Ouais. Et quand on a eu vent du premier lotissement qui s'est fait à Uni, voilà, on a tout de suite réservé une parcelle pour y construire.
D'accord. Quand vous dites ça me plaisait, vous avez regardé quand même commerce, médecin, école, si tout ça était possiblement coché?
Absolument pas.
Mais, et vous ne vous êtes pas posé la question a posteriori? Vous ne vous êtes pas dit, ça va peut-être poser un problème?
À l'époque, il y avait une école.
Ah, donc, c'est toujours le cas d'ailleurs.
Hein, c'est toujours le cas. Après, on est motorisé. Et pour nous, ça ne nous semblait pas être un frein à l'installation ici. C'est vrai qu'on est à la campagne, mais on a une ville à 8 km. Donc pour nous, ça ne nous pose pas de soucis. Quoi.
D'accord.
On habitait à Longwy avant.
Oui.
On a regardé, ça nous a rajouté 10 minutes sur le trajet de.
D'accord. Donc pour vous, finalement, que des aspects positifs. On va y revenir dans un petit instant. Vous allez nous raconter votre quotidien, vous allez nous raconter des difficultés si vous en avez. Peut-être madame, on va voir si Christelle a le même point de vue que Joseph. Et puis votre ado, Lucas, comment on fait en termes de mobilité? Comment on fait pour se cultiver? Comment on fait pour avoir des activités sportives quand on est un jeune aussi dans ces communes? Et puis Arthur Mbaché, qui est notre correspondant, qui reste bien sûr avec nous pendant ces 2 heures. À tout de suite.
Votre grand journal du soir spécial élection municipale, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. 18h30 sur Europe 1, votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy.
Et on est ici à Uni en Meurthe-et-Moselle jusqu'à 20h, édition spéciale avant le premier tour des municipales dimanche. Cette étape qui nous permet de regarder de près les communes de France, leur état, l'épineux problème des déserts médicaux, de la mobilité ou encore de la fracture numérique, avec dans cette ville précisément de Uni un premier café qui ouvrira ses portes dimanche, qui viendra rejoindre donc 2 salons de coiffure et une école maternelle et primaire. Les habitants sont là autour de nous et notre spécialiste également. Mais d'abord, c'est votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et Panique
panique sur les places financières mondiales. Ce soir, crise du coronavirus plus chute historique des cours du pétrole. C'est la deuxième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. Un premier cas de coronavirus détecté au sein d'une école parisienne. Il s'agit d'une élève de 8 ans contaminée. Sa classe a été fermée. Le match PSG Dortmund en 8e de finale. Retour de Ligue des Champions se jouera à huis clos mercredi. Le dernier match du tournoi des 6 nations de rugby entre la France et l'Irlande est lui reporté à l'automne. Un cas de coronavirus également détecté à Disneyland Paris. Un agent de maintenance qui n'était pas en contact avec le public. Les dirigeants européens tiendront une visioconférence demain pour coordonner leurs actions face à cette épidémie. L'Union fait la force, écrit Emmanuel Macron sur Twitter. Les États-Unis, eux, exhortent les personnes âgées à faire des stocks et à se préparer à rester chez elles. Et puis, le président turc est à Bruxelles ce soir. La question migratoire, évidemment, sur la table. La météo, Anissa, il n'y a que le sud qui sera au soleil demain avec la petite musique.
Exactement, c'est bien résumé ça, Isabelle, puisque demain, c'est dans les Pyrénées, sur le golfe du Lion, la Côte d'Azur et la Corse, que la journée sera la plus belle. Vous avez de la chance dans ces régions. Alors sur la région Aquitaine et l'Auvergne, vous aurez des nuages gris le matin, des nuages assez épais, mais le temps restera sec. Et puis l'après-midi, ces nuages laisseront passer quelques belles éclaircies. Partout ailleurs, parapluie, ciré, impair, tout ce que vous voulez, mais il va beaucoup pleuvoir. Et le ciel sera très gris demain. Les températures, moins 1 à Gap, 2 à Saint-Étienne, 5 à Nancy, 8 à Paris. Et dans l'après-midi, 11 à 15 degrés en moyenne.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Nathalie Lévy. C'est une édition spéciale, quatrième étape de ces éditions spéciales élections municipales. Vous êtes en Meurthe-et-Moselle, Nathalie Lévy, à Uny avec vos invités. Et votre invité fil rouge qui vous a suivi depuis Paris, Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Et oui, on est ensemble pour faire cet état des lieux. Comment fonctionnent aujourd'hui ces communes en ruralité? Et c'est la question que je vous pose. Quel est le problème numéro 1, Jérémy Pelletier, qu'on trouve en ruralité? On entendait à l'instant notre invité Joseph qui nous disait « on s'est installé là, il y a pas mal de choses positives, mais il y a aussi pas mal de points faibles, clairement ».
En tout cas, le point qui revient de façon perpétuelle quand on fait des enquêtes d'opinion, c'est la question de la mobilité. Dans une époque où tout le monde parle de bougisme, où la mobilité devient le critère pour être intégré ou pour se sentir isolé, je crois que le sujet de la mobilité, évidemment, c'est l'un des sujets centraux. On parle souvent de la France qui se lève tôt. À côté de moi, il y a un jeune qui parlera sans doute tout à l'heure. Pour le coup, j'ai envie aussi de parler de la jeunesse qui se lève tôt parce que justement, pour aller au collège chaque matin, il a un car qui le prend à 7h15, ce qui est une situation très inégalitaire par rapport à un jeune qui habite dans une grande métropole, par rapport à une grande ville qui va se lever beaucoup plus tardivement pour se rendre dans son établissement.
Ben oui. Alors, José, je voudrais donner la parole à votre épouse, Christelle Cross. Vous, je ne sais pas comment vous avez fait quand vous avez atterri ici, si vous étiez OK avec votre mari. Toujours est-il que j'aimerais bien, même si Joseph avait l'air d'être plutôt très positif, vous, qu'est-ce que vous soulevez aujourd'hui comme difficulté au quotidien ?
Ah ben aujourd'hui, c'est clairement la mobilité, ouais. Parce que Lucas fait énormément de sport.
Lucas, c'est donc votre fils ?
Lucas, oui. Et je dois l'amener partout, tout le temps. Oui. Entre,
plusieurs fois par jour, même, sans doute ?
Oui. D'aller le rechercher et bon, de sortir avec ses copains. Ici, il n'y a pas de bus, il ne peut pas prendre le bus lui-même, il ne peut pas... Je ne peux pas y aller seul. Donc oui, ça, effectivement, c'est...
Ça, c'est vraiment le frein. Alors, un seul transport public, ici, c'est le transport scolaire, hein, n'est-ce pas, Lucas ?
Oui, c'est ça.
C'est ça. Donc, vous le prenez à 7h15 le matin ?
Oui.
Il y a un seul horaire le matin et la fin de journée ?
On arrive ici à 18h30.
Donc, un seul horaire aussi en fin de journée pour le retour. Et donc, pour les activités sportives, rien. C'est vos parents ?
Voilà. On est obligé de... Enfin, c'est obligé que ce soit nos parents qui nous emmènent ou... s'arranger avec des amis pour que leurs parents nous emmènent.
J'imagine que c'est la même chose pour les activités culturelles ?
Oui. Et
ou les divertissements ?
Tout à part l'école.
Tout à part l'école. Voilà. Donc ça veut dire que c'est combien de kilomètres en moyenne pour aller pratiquer une activité sportive ?
Pour pratiquer une activité sportive, une dizaine de kilomètres. Mais ça oblige quand même les parents à se déplacer. Et pour le week-end, bah, comme il n'y a pas de transport scolaire, il n'y a rien, quoi.
C'est un frein pour vous ? Vous imaginez tous les deux rester vivre ici pour autant en voyant votre ado grandir ? Parce que forcément, il va demander à sortir encore un peu plus, Joseph ou...
Pour ma part, Christelle. Oui. Je pense que je vais rester ici si on ne me cherche pas. donc, je vais faire l'effort d'emmener Lucas où il veut, dans la mesure du possible. Bon, c'est un investissement de temps. Mais voilà, on n'a pas le choix. On a choisi d'être là. Donc ça fait partie des points négatifs, mais on vit avec, quoi. C'est pas ça qui nous fera partir, je pense.
Vous, maintenant, un mandat, vous êtes attaché un peu plus encore à Uni avec Restobar, hein, le nom de ce café qui va ouvrir ses portes dimanche. En termes de médecins, en termes d'école, l'école pour l'instant, c'est école maternelle, école primaire, là, à quelques encablures d'ici. Pour le médecin, c'est voiture obligatoire.
Oui.
Donc on s'y prend comment ? À l'avance ?
À l'avance, mais on choisit pas.
On peut pas prévoir la maladie.
On choisit pas quand on a quatre enfants malades, mais en effet, bon, déjà les délais pour avoir un rendez-vous, c'est assez long aussi.
C'est-à-dire combien de délais ?
Bon, pour mon médecin traitant, il faut compter une semaine.
D'accord. Et ça, c'est votre médecin généraliste.
Ouais.
Pour un spécialiste ou pour
Ouais. J'ai eu rendez-vous il y a pas longtemps, donc chez une dermatologue à Longwy. J'ai eu 6 mois.
6 mois de rendez-vous pour un dermato. Ouais. D'accord. Du coup, je me tourne vers vous quand même, Jérémy Pelletier. Quand on voit ces délais, quand on voit cette absence d'infrastructure tant sur la mobilité que sur les déserts, enfin, les médecins, on va en parler dans la deuxième partie longuement, on se dit quoi ? Est-ce que depuis les Gilets jaunes et le grand débat, il y a peut-être quelque chose qui s'est passé ou rien définitivement avec ces communes ? La fracture est toujours là, France d'en bas et France d'en haut, comme on dit. Le clivage est toujours très...
Alors, le clivage est encore très structurant. Je pense que s'il s'est passé quelque chose pendant les Gilets jaunes, c'est la mise en lumière aussi de cette France-là. C'est la reconnaissance aussi, je pense, des spécificités et des disparités qui existaient dans cette France-là. Quand on dit cette France-là, c'est la France périphérique, la France loin des grandes métropoles et la France des zones rurales. On avait beaucoup parlé des quartiers populaires, on avait beaucoup parlé des banlieues, sans doute parce qu'on avait beaucoup plus entendu, notamment la jeunesse des banlieues, au cours des dernières années manifester, revendiquer un certain nombre de choses. Je pense que cette France-là, dans laquelle on est aujourd'hui, avait peu manifesté, s'était peu fait entendre. Et donc, s'il y a quelque chose qui a changé depuis les Gilets jaunes, c'est quand même la mise en lumière des disparités, des spécificités de cette France-là.
Il faut dire qu'il y a eu des lois urbano-centrées, hein, telles que les radars, le prix du carburant, bien sûr, hein, qui a mis le feu aux poudres, le prix du tabac, la limitation à 80 km/h. Je crois qu'ici, ça a beaucoup bougé, ça s'est beaucoup énervé contre l'exécutif. Vous allez nous le dire dans un tout petit instant. On se retrouve ici à Uni, en Meurthe-et-Moselle, jusqu'à 20h avec vous tous.
Votre grand journal du soir, édition spéciale élection municipale, c'est jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1.
Municipale 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Édition spéciale élection municipale jusqu'à 20h avec Nathalie Lévy sur Europe 1. Vous êtes, Nathalie, en direct d'Uni, en Meurthe-et-Moselle, avec vos invités. Et votre invité fil rouge, vous recevez Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, dans la deuxième partie, on parlera évidemment de ces déserts médicaux, de la fracture numérique également avec nos invités. On est là installés et on se demande aussi comment attirer les néo-ruraux dans ces petits villages, ici, dans ces petites villes. 750 habitants ici, avec une progression quand même de la population. Jérémy Pelletier, à l'heure où un village sur deux n'a plus de commerce en France, comment on fait pour attirer une nouvelle population aujourd'hui ?
Café, ce qu'on disait tout à l'heure, c'est que je pense que c'est ce qui est très important, c'est de remettre des lieux de vie. Après, il faut faire attention quand on parle des néo-ruraux. D'abord, il y a un certain nombre de personnes qui viennent vivre ici comme, je dirais, dans une zone dortoir finalement. Et aujourd'hui, la grande spécificité par rapport à avant, c'est que on ne dort plus forcément dans le même endroit là où on travaillait. Par ailleurs, quand on parle des néo-ruraux, vous savez, on a un discours qui tend justement à dire « Regardez, la campagne est devenue maintenant très attractive, et il faut arrêter d'être misérabiliste vis-à-vis des zones rurales et vis-à-vis de ces territoires-là. » Sauf que les néo-ruraux sont des gens qui ont fait leur vie ailleurs. Ce sont des gens qui ont fait leur légitimité professionnelle ailleurs, qui ont construit leur expérience ailleurs, ce qui est très, très différent des gens qui sont restés ici et qui doivent justement construire leur avenir professionnel, et notamment les jeunes ici. Donc quand on parle des néo-ruraux, il faut faire très attention aux différences de représentation, vision assez attractive que eux peuvent avoir versus les difficultés que peuvent avoir les gens qui ont toujours habité ici.
Alors forcément, il y a des initiatives aussi. Arthur Mbaché, vous qui connaissez bien la région, vous avez pu voir aussi qu'il y a des initiatives qui se créent ici à Uni, mais un peu partout. Il y a aussi des initiatives, j'allais dire, des élus, des demandes des élus hein, qui veulent vraiment rendre leur commune plus attractive avec le maintien du prêt à taux zéro en secteur rural, l'exonération des cotisations foncières des entreprises dans les communes de moins de 3500 habitants. Ça va être un gros enjeu là pour ces municipales.
Ah oui, absolument, c'est évident. Disons que ce qui me semble important de souligner, juste un mot sur le café dans lequel on se trouve, il est porté par le groupe SOS et on ne l'a peut-être pas souligné suffisamment tout à l'heure. Toute seule, Amanda n'aurait pas pu ouvrir ce café. Elle a essayé de le faire, la banque a dit stop, c'est pas possible. Et ça, c'est, c'est, Ça veut dire que les banquiers disent, dans ces coins-là, vous n'aurez pas de clients. Ils sont morts, il n'y a pas d'activité, vous ne lancez pas là-dedans. Et avoir un groupe qui est puissant et qui porte des projets comme cela et qui accepte de prendre le risque sur lui, il me semble que ça permet de débloquer des situations. Et ça veut dire qu'on peut peut-être avoir un regard différent sur ces coins-là et pas avoir un regard, je ne veux pas caricaturer, mais un peu de banquier dans son bureau qui dit « Oula, un petit café dans un bled, laisse tomber, tu ne vas jamais y arriver ».
Alors justement, avoir un regard différent, on va aller dans un autre village, dans une autre région, auprès de Dunkerque. Ici, on fait le choix aussi de venir vivre dans un village reculé. À une trentaine d'années, un couple et leur fille se sont installés dans ce petit village à Drincham, à 30 km de Dunkerque, dans les Flandres, pour pouvoir acheter, pour pouvoir avoir plus d'espace, pour accéder à la propriété. C'est un reportage signé Lionel Gougelot.
Un petit lotissement en bordure d'une prairie, à peine plus de 300 habitants dans le village de Drincham. Michael, dessinateur industriel, et Cindy, animatrice petite enfance, se sont installés ici d'abord parce que le faible prix du mètre carré leur a permis d'acheter leur maison, tout en retrouvant un meilleur cadre de vie.
L'été, vous sortez dans votre jardin, vous vous installez et vous écoutez et vous entendez rien. Pas de bus, pas de voiture, pas de klaxon, pas les usines qui ronronnent loin. Vous entendez les vaches. Bien sûr, parce qu'il y a une pâture derrière, donc forcément. Quand on revient du boulot, c'est agréable parce que on prend une bouffée d'air frais et puis on se détend vraiment, quoi, en fait.
Pas un seul commerce dans le village, une école à classe unique pour leur petite Zoé, mais aucun sentiment d'éloignement, assure Cindy, à condition d'avoir deux voitures.
Parce que moi personnellement, mon médecin est toujours sur Gravine, donc ça fait un peu de route. C'est vrai que ça pose problème. Il faut vraiment avoir deux voitures pour pouvoir se déplacer, surtout s'il y a l'un des deux qui travaille. Si on doit aller faire des courses, on a besoin d'avoir une deuxième voiture.
Et ça, forcément, ça coûte plus cher.
C'est un budget, mais après, voilà, on s'adapte. Hein. C'est un choix de vie.
Un choix conforté par une intégration parfaite dans le village.
Tout le monde se connaît, on apprend vite à se connaître. La moindre activité sur le village où on participe, tout ça, on discute facilement avec les gens. C'est vraiment, c'est convivial, quoi.
Michael et Cindy ne sont pas prêts de retourner en ville.
Alors, on se retrouve ici à Uni, dans le resto-bar d'Amanda qui nous a ouvert ses portes ce soir. Amanda, Joseph et Christelle, parce que vous vivez là, à Uni ou à 4 km de là, je voudrais vous poser quand même la question, après les Gilets jaunes, est-ce que vous ressentez un sentiment d'injustice fort aujourd'hui, en étant évidemment là, dans cette commune où il n'y a pas de transport, si ce n'est, on l'a dit, les transports scolaires, le transport scolaire, mais pas de transport public. Est-ce que vous sentez une injustice, oui ou non? Alors Amanda, peut-être pour commencer.
Oui, parce que du coup on pense qu'on est un peu mis à l'écart justement, et puis on peut si maintenant moi avec mes 4 enfants, si tout le monde le mercredi après-midi se met à faire une activité, on pourra pas les ramener tout simplement. Et donc du coup oui, c'est un peu emprisonné, et puis il faut mettre un peu plus de transport. Pour les grands peuvent très bien prendre le bus tout seul maintenant, donc ils pourraient justement le faire, et nous on pourrait s'occuper des petits pour les emmener, mais là c'est pas possible.
Joseph et Christelle, rapidement, et on va y revenir dans un instant.
Oui, je suis un peu d'accord dans la mesure où peut-être pas sur la semaine, mais au moins le week-end qui est allez, je dis pas qu'on doit avoir un bus tous les 10 minutes, mais si on avait deux bus en début d'après-midi et un bus le soir, ça serait
C'est vraiment votre requête prioritaire. Avant la fracture numérique, avant l'installation d'une maison de santé, par exemple, Christelle, c'est vraiment la mobilité, la mobilité où vous dites, on tire la sonnette d'alarme.
À partir du moment où on a des adolescents, oui, carrément. Ça devient important parce que sinon, sans nous, il ne peut rien faire. Donc, c'est quand même dommage, quoi.
La mobilité, le premier frein. On va y revenir avec vous, Arthur Rimbach, dans un petit instant. Vous connaissez particulièrement bien la région. On se retrouve ici même à Uni jusqu'à 20h. À tout de suite.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Votre grand journal du soir jusqu'à 20h en édition spéciale. C'est la 4e étape de ces éditions spéciales municipales. Vous êtes à Uni, en Meurthe-et-Moselle. Nathalie Lévy avec vos invités. Jérémy Pelletier est à vos côtés. Il est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, et la question qu'on se pose évidemment, c'est comment lutter contre la désertification des villages. Alors on le voit avec l'ouverture d'un café, parce que le lien social, c'est indispensable. On le voit grâce à Amanda Gargano, gérante du resto-bar qui ouvre dimanche à Uni. On voit les demandes évidemment de la population, c'est plus de mobilité pour eux, pour leurs jeunes bien sûr. Et puis avec vous, Jérémy Pelletier, qui est directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, on se dit voilà, par quoi il faut commencer? Comment lutter contre la désertification des villages? Le gouvernement, il a annoncé à la rentrée un plan ruralité, les premières mesures, on verra dans quelques semaines si elles ont des effets. On voit que le gouvernement, il se penche aujourd'hui vraiment vers la France rurale et périphérique. Il y a urgence.
Il y a eu urgence, absolument. Bon, alors évidemment, il y a eu la crise des Gilets jaunes qui est passée par là. On est juste avant des échéances importantes qui sont les élections municipales. Et je crois que la focale est beaucoup mise, notamment dans les médias. Et c'est pour ça, c'est tout à votre honneur de venir ici dans ces territoires. Mais la focale est très souvent mise sur les grandes villes, notamment les grandes villes de ce pays, parce que c'est ce qui va définir la victoire ou la défaite des partis politiques au municipal. Or, ils savent très bien qu'en termes de cohésion nationale, c'est très important, évidemment, de s'intéresser à cette France-là, qui, comme je l'ai dit, concerne quand même 60% de la population. Et peut-être pour répondre à votre question sur qu'est-ce qu'il faut faire, je crois que pour rendre attractif ce type de territoire, il faut justement répondre d'abord avant tout à cette offre de la mobilité. Et alors, je pense qu'il y a deux enjeux. Et l'un des enjeux, par exemple, c'est le permis de conduire. Ouais. On en a beaucoup parlé ici. Pourquoi ne pas permettre aux jeunes individus d'avoir le permis de conduire dès 17 ans pour éviter justement d'être dépendants de leurs parents et pour être de plus en plus autonomes justement à la mobilité?
Oui, les élus assurent aussi qu'il faut relancer le permis à 1 euro par jour via un prêt à taux zéro. Je ne sais pas si on en parle ici chez vous à Uni.
Allons-y, ils le font.
Allons-y, c'est tout près. Donc on va voir, peut-être que ça peut arriver jusqu'à Uni. En tout cas, le message est passé. Les commerces, parce que, évidemment, sans permis de conduire, difficile aussi de travailler, de trouver un emploi. On a parlé des jeunes, mais difficile aussi de sortir du chômage quand on est en difficulté, par exemple. Paul, bonsoir. Vous êtes avec nous en région Rhône-Alpes.
Oui, bonsoir madame. Je vous écoute depuis un petit moment, d'accord. J'ai l'impression que vous voulez parler évidemment des centres-villes, la réhabilité, etc. C'est un sujet qui évidemment qui est tout à fait d'actualité. Tout le monde s'y penche avec une acuité plus ou moins distante, etc. Mais ça, c'est un souci majeur. Alors évidemment, c'est un peu la conséquence d'années un petit peu de décentralisation. Pourquoi décentralisation ? Parce que les gens trouvent une facilité avec les parkings qui voisinent les grandes surfaces, etc. Tout ça se fait au détriment des centres-villes. Et c'est bien dommage parce que quand on est attaché à un centre-ville, on sait que le voir déserté, etc., au cours des journées de semaine, etc., ça décourage les commerçants, les bâtiments ne sont pas entretenus, etc., etc. Comment remédier à tout ça ? Je pense que c'est une...
Parce que vous êtes maire, hein, pardonnez-moi, je précise que vous êtes maire d'une commune de 650 habitants.
Je suis très attaché à la ville-centre qui est à 4 km de ce petit village, dans
lequel
j'ai grandi en partie, etc., qui s'appelle Belet dans l'Ain. Et je trouve que c'est une ville qui est un petit peu délaissée depuis très longtemps. Alors c'est des politiques qui ont facilité cette excentralisation de nombreux commerces, les grandes surfaces, etc. Et on a des visions qui sont partagées entre une vision purement citadine, qui est le souci du maire de la ville-centre, mais qui est partagée aussi avec le président de la communauté de communes. Ces deux visions qui sont actuellement extrêmement antagonistes. Ouais. Et c'est bien dommage. Je crois qu'il faut aimer sa ville-centre, il faut essayer de... Je vous dis, une fois de plus, c'est un état d'esprit qui doit être généralisé et partagé par tout le monde, par les citadins, etc., et aussi par les propriétaires de structures immobilières, qui ont une tendance à louer leur pas de porte à des sommes qui sont inabordables.
Ah bah justement, c'est intéressant ce que vous nous dites. C'est intéressant ce que vous nous dites. On va en parler dans un petit instant avec un autre invité qui est à Guéret dans la Creuse et qui loue lui à 1 euro la première année pour redynamiser le village. Oui, c'est vrai, 1 euro. On va l'entendre dans un petit instant. Je voudrais me retourner vers vous, Amanda Gargano, parce qu'aujourd'hui, le café, 750 habitants ici à Uni, vous espérez combien de clients, j'allais dire, régulièrement dans votre établissement? Parce qu'il va falloir que ce soit rentable.
Ah ben bien sûr, on espère le maximum. Hein. Donc on peut accueillir jusqu'à 50 couverts midi et soir. Donc pourquoi pas que ce soit plein midi et soir. Donc,
outre la restauration que vous proposez, est-ce qu'il faut, dans une ville comme Uni, 750 habitants, peu d'infrastructures, voire pas, est-ce qu'il faut donner une double casquette à ce café-restaurant?
C'est sûr, évidemment.
Alors, quelle sera-t-elle?
Donc, oui, nous, on veut essayer donc, de rassembler au maximum les gens du village, donc avec notamment des ateliers pour les enfants les mercredis après-midi, faire des soirées karaoké, des soirées loto, belote, essayer justement de lutter contre les petits villages dortoirs comme c'est le cas à Uni. Donc oui, pour nous, c'est important que les gens d'Uni viennent nous voir, viennent s'amuser avec nous, viennent passer un bon moment et voilà.
On parle de village dortoir depuis tout à l'heure, on en a parlé aussi avec vous Jérémy, parce qu'il faut rappeler qu'on est tout près du Luxembourg,
voilà,
ouais. Où vous travaillez d'ailleurs, Joseph, c'est pour ça aussi sans doute que vous êtes installé à Uni, on est vraiment tout près du Luxembourg, donc évidemment il est vite fait d'aller à la fois prendre son essence sur place, y travailler, acheter aussi ses cigarettes, hein. C'est aussi j'allais dire, la singularité du nid.
Absolument, il y a une singularité en termes d'espace transfrontalier. Mais pour le coup, ce n'est pas une spécificité de ce qu'ont sont devenues les zones rurales françaises. On l'a dit, il y a 30 ans, 40 ans, les zones rurales françaises, les villages français permettaient de travailler là où on habitait. Aujourd'hui, ce n'est absolument plus le cas. Et je pense que c'est devenu une généralité maintenant que les zones rurales ou que les petits villages soient devenus des zones dortoirs. Ce n'est pas une spécificité des zones transfrontalières.
On va se retrouver ici à Uny, en Meurthe-et-Moselle, avec tous nos invités, les déserts médicaux également, la fracture numérique. On s'en parle avec vous jusqu'à 20h, on est en direct.
Vous pouvez bien sûr réagir au 39-21 en direct ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1. On lit vos réactions. Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Quatrième étape de ces éditions spéciales consacrées aux élections municipales avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1. Nathalie Lévy en direct d'Uny en Meurthe-et-Moselle. Et dans un instant, Nathalie Lévy vous parlera des déserts médicaux, de la fracture numérique avec Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Et ses nombreux invités autour de la table, vous pouvez bien sûr réagir. N'hésitez pas en direct au 39-21 ou sur Twitter avec le hashtag Europe 1, votre grand journal du soir. C'est avec Nathalie Lévy et Isabelle Millet. Vous écoutez Europe 1, il est 19h.
On est sur un schéma où on a vraiment une conjonction de facteurs qui incite à la prudence. Le résultat, c'est automatiquement une panique boursière, comme on a pu le constater sur le CAC 40 aujourd'hui.
Lundi noir sur les marchés, c'est la deuxième plus forte baisse de l'histoire pour le CAC 40. Ça plonge de toutes parts, toutes les places financières dégringolent. PSG Dortmund à huis clos, France-Irlande reportée, la Philharmonie en sourdine, des meetings parisiens annulés, les annonces se multiplient. Alors qu'à Paris, un premier cas d'élèves contaminés a été enregistré, sa classe a été fermée. Un cas également à Disneyland Paris, mais cet employé n'était pas en contact avec le public. En Italie, c'est terrible, mais les médecins n'ont pas le choix. Ils se préparent à trier les malades, faute de matériel suffisant pour pouvoir sauver tout le monde. Et puis plus léger, Harry et Meghan ont fait aujourd'hui leurs adieux officiels à la couronne d'Angleterre. La tendance météo, Anissa.
Avec un temps très pluvieux demain, Isabelle, très humide sur les trois quarts de la France. Il n'y a que le sud qui sera au sec. Je vous donne tous les détails à la fin du journal.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Nathalie Lévy, Isabelle Millet.
Et voilà qu'à la crise sanitaire s'ajoute une crise financière. Les bourses dévissent, on n'avait pas vu ça depuis la faillite de Lehman Brothers en 2008. Deuxième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. Milan perd 11%. Wall Street aussi est dans le rouge. Alors comment expliquer ce lundi noir sur les marchés? Écoutez les éléments de réponse de Christopher Demby, qui est chef économiste chez Saxo Bank.
Cette baisse du CAC 40, elle reflète essentiellement deux aspects. Bien sûr, les craintes qui sont déjà prévisibles sur le coronavirus, cet impact économique, il est difficile de cerner. Et surtout, le déclic qu'on a constaté par rapport aux autres séances, c'est tout simplement la forte baisse du prix du baril de pétrole, qui n'était pas du tout attendue ce week-end et qui a été un peu la mauvaise surprise à l'ouverture de la bourse. Donc, on est sur un schéma où on a vraiment une conjonction de facteurs qui incite à la prudence. Et le résultat, c'est automatiquement une panique boursière, comme on a pu le constater sur le CAC 40 aujourd'hui. Les investisseurs ont besoin d'être rassurés. Et ça passera bien sûr par des banques centrales qui baissent leurs taux, mais surtout par des gouvernements qui mettent en place des plans de relance.
Christopher Dembik, chef économiste chez Saxo Bank, avec Emmanuel Duteil d'Europe 1. Et alors que le bilan du coronavirus s'élève désormais en France à 21 morts, deux nouveaux décès aujourd'hui en Corse et en région Auvergne-Rhône-Alpes. À Paris, une classe de l'école élémentaire Blomé dans le 15e arrondissement a été fermée aujourd'hui après la détection d'un cas chez une élève, Nicolas Feldman.
Eh bien, il s'agit d'une petite fille de 8 ans testée hier positive au Covid-19. Elle est aujourd'hui en bonne santé, ne présente que des symptômes bénins. Elle aurait été contaminée en fait au contact de son grand-père, lui-même porteur du virus. Conséquence ici, dès hier soir, eh bien, les parents de l'école ont été informés. La classe de CE2 de cet élève est fermée. Une petite trentaine d'enfants sont invités à rester chez eux jusqu'au 17 mars. Pour les autres de l'école, programme quasi inchangé. Aujourd'hui, Sidonie est venue déposer sans crainte ce matin Jules, son fils en CM.
Je lui ai expliqué, je lui ai demandé s'il voulait quand même y aller lui, s'il se sentait, s'il était tout à fait serein, et donc oui, je l'ai emmené.
Et devant la sortie de l'école, le fils Jules affiche la même sérénité après une journée presque normale.
La directrice, elle a dit qu'on devait bien se laver les mains et qu'il y avait une classe qui était absente pendant une semaine.
Mais ne fermer qu'une classe, la décision ne fait pas l'unanimité ici. Sophie Lenoir est présidente dans ce groupe scolaire de la PEP, une association de parents d'élèves.
Si on ferme
une classe, on ferme l'école. On se côtoie tous. C'est quand même très paradoxal de réserver en tout cas un traitement sur une classe. Voilà.
Et pour tous les parents, les enfants qui auraient été au contact rapproché de cet élève et présenteraient des symptômes, un dispositif de dépistage spécifique a été mis en place à l'hôpital Necker.
Les précisions de Nicolas Feldman devant cette école du 15e arrondissement de Paris. Un cas de coronavirus détecté également à Disneyland Paris. Il s'agit d'un agent de maintenance qui n'était pas en contact avec le public. Le parc reste ouvert, en tout cas pour l'instant. Et alors que bon nombre de concerts et d'événements sont annulés car accueillant plus de 1000 personnes, le musée du Louvre a lui décidé aujourd'hui de réguler ses entrées en les réservant uniquement aux visiteurs munis d'un e-billet ou à ceux bénéficiant d'une entrée gratuite. Les conséquences de cette épidémie aussi sur le sport. Le 8e de finale retour de la Ligue des Champions entre le PSG et Dortmund se jouera finalement à huis clos mercredi. Coup dur pour les Parisiens qui espéraient le soutien de leurs supporters. Ils en avaient bien besoin, eux qui ont été battus 2-1 au match aller. Le huis clos peut devenir notre doctrine, dit la ministre des Sports Roxana Maracineanu. En rugby, le match du tournoi Destination France-Irlande est lui reporté à l'automne. Et puis en Italie, cette fois, un quart de la population est désormais en quarantaine. 97 nouveaux cas, nouveaux décès aujourd'hui. Les hôpitaux sont débordés et les médecins s'inquiètent. Ils vont devoir faire un tri, en effet, entre les malades, faute de moyens pour traiter tout le monde. Ils le disent eux-mêmes dans la presse italienne, il n'y a pas d'autre choix. Mathieu Bock, vous êtes l'envoyé spécial d'Europe 1. Mathieu, les Milanais que vous avez rencontrés cet après-midi sont plutôt compréhensifs et même pragmatiques.
Oui, cela fait 2 semaines que l'Italie est touchée de plein fouet par cette épidémie. Les Milanais ont donc appris à vivre avec. Même les personnes âgées que j'ai rencontrées dans la rue aujourd'hui reconnaissent que les médecins devront établir des priorités.
La situation est grave et très sérieuse. C'est une vraie tragédie. Il faut faire des choix. Les autorités n'ont jamais été très claires là-dessus. Elles ont toujours trié ceux qui pouvaient être placés en soins intensifs, ceux qui ne pouvaient pas. Sauf que maintenant, elles le disent.
Ça dépend de la manière dont la maladie va évoluer. Car si le nombre de malades ne fait qu'augmenter, encore et encore, forcément, ils seront obligés de faire des choix.
Mais la situation pourrait encore empirer puisque le coordinateur de la cellule de crise en Lombardie a expliqué qu'actuellement environ 1000 personnes étaient en soins intensifs dans toute la région et que ce chiffre pourrait tripler d'ici la fin du mois.
Mathieu Bock, envoyé spécial d'Europe 1 à Milan, l'Italie qui annonce ce soir qu'elle ferme toutes ses stations de ski. L'actualité, c'est aussi le procès des incendiaires de la préfecture du Puy-en-Velay au plus fort du mouvement des Gilets jaunes le 1er décembre 2018. Des peines de 1 an à 6 ans ferme ont été requises tout à l'heure pour les 4 prévenu. Autre procès qui touche à sa fin, celui des époux Fillon pour les soupçons d'emploi fictif, dernière journée avant les plaidoiries. François Fillon appelé à s'expliquer notamment sur un prêt de la part d'un ami milliardaire pour financer les travaux de rénovation de sa maison. C'est une erreur, a-t-il dit, mais c'est une erreur honnête, provoquant des rires dans la salle. En Grande-Bretagne, c'est l'image du jour, le prince Harry et Meghan Markle aux côtés de la reine Elisabeth II pour leur dernière sortie en tant que représentant de la famille royale. C'était tout à l'heure lors d'une messe pour la journée du Commonwealth, avant de commencer pour de bon leur nouvelle vie au Canada. Johanna Chabas, la correspondante d'Europe 1, était aux côtés de Londoniens très émus pour cette dernière apparition officielle.
Le couple n'est resté que quelques minutes sur le perron de la cathédrale, le temps pour la presse de prendre des photos. Un dernier geste de la main furtif de Harry avant de monter dans sa voiture. Et voilà la fin de ses obligations royales. Brenda est très émue.
C'est un peu triste, je suis triste pour la reine en fait. Elle ne va plus beaucoup les voir alors qu'avant ils étaient juste de l'autre côté de la rue.
Des centaines de personnes comme Brenda ont attendu derrière les barrières pour apercevoir le couple. Karen voulait faire partie de ce moment historique.
C'est génial de les voir de si près. Faut saisir tous les détails. Je suis contente d'être là. Je suis ravie d'avoir pu voir tout ça.
Lors de la cérémonie, la reine a fait un discours pour mettre en avant la diversité de sa famille présente dans le monde entier. Un message vu par la presse comme un geste de soutien envers le couple. Pour Terry, touriste américaine, c'était important pour Harry et Meghan.
Je pense que ça va les aider à se sentir toujours aimés par la famille royale, surtout Meghan. Surtout qu'ils vont vivre au Canada, donc c'est un beau geste de la reine, un beau message.
Cette fan de la famille royale attend avec impatience le 31 mars, date officielle du Mexit, quand Harry et Meghan renonceront à leur titre d'altesse royale.
Le reportage de Johanna Chabas, correspondante d'Europe 1 à Londres.
Et du côté du ciel, merci Isabelle, on vous retrouve à 19h30. C'est Anissa qui nous dit qu'il y aura du soleil, mais attention, seulement dans le sud.
Oui, seulement dans le sud, effectivement Nathalie, vous faites bien d'insister et de préciser. C'est sur les Pyrénées, le golfe du Lion, la Côte d'Azur et la Corse que la journée sera la plus belle demain, une journée au sec avec de très belles apparitions du soleil, de belles éclaircies sur la région Aquitaine et l'Auvergne. Votre journée va commencer sous les nuages, mais rassurez-vous, dans l'après-midi, vous aurez la chance de voir le soleil et puis sous les nuages, le temps restera sec, surtout demain matin. Attention, c'est à l'est que le temps sera très couvert, très nuageux, très gris, avec de nombreuses averses sur les Ardennes, la Bourgogne-Franche-Comté, jusque sur la vallée du Rhône. Là, les pluies seront plus soutenues. Attention, même dans les Alpes, au risque d'avalanche, toujours très important demain. Sur toute la moitié nord du pays, vous l'avez compris, il fait gris. Et en plus de ça, le vent d'ouest va souffler. Il se rajoute à la pluie avec des rafales jusqu'à 70 km/h. Les températures demain matin, c'est frais à Gap avec moins 1 degré, 2 à Saint-Étienne, 3 à Clermont-Ferrand, 5 à Nancy et Montluçon, 8 pour Paris. Et dans l'après-midi, nous aurons 11 à 15 degrés en moyenne sur la France, 10 à 20 sur le pourtour méditerranéen.
Europe 1.
Et c'est la suite de cette édition spéciale de votre grand journal du soir. Élections municipales, vous êtes à Uny en Meurthe-et-Moselle, Nathalie.
Et oui, on est à Uny en Meurthe-et-Moselle jusqu'à 20h et je peux vous dire qu'ici la convivialité règne déjà depuis que nous sommes arrivés. On est accueillis à bras grands ouverts et il faut dire qu'ici il y a des initiatives véritablement. On parle de ces fractures numériques, de ces déserts médicaux, de cette vie en ruralité pas toujours simple avec une mobilité extrêmement réduite. On l'a vu, à tout âge, on en subit évidemment le contre-coup. On va se parler bien sûr avec tous nos invités et Jérémy Pelletier qui nous accompagne, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, en fil rouge. J'en invité expert hein, avec Arthur M. Bachet aussi, qui est notre correspondant Europe 1 dans la région. Je voudrais, avant d'aller sur l'aspect désert médical, parce que c'est le cas, vous dire qu'on se retrouve dans un petit instant. À tous.
Votre grand journal du soir, c'est avec Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.
Municipal 2020, édition spéciale sur Europe 1.
Votre grand journal du soir en édition spéciale en direct d'Uny en Meurthe-et-Moselle avec vous, Nathalie Lévy. Et jusqu'à 20h avec vous, on va parler des déserts médicaux, de la fracture numérique avec vos invités autour de la table et votre spécialiste à vos côtés, Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Et oui, on se retrouve ici jusqu'à 20h avec une question. On va parler des déserts médicaux, fracture numérique dans un petit instant. Mais une question d'abord pour faire vraiment le tour à la fois à Uny et à la fois un peu partout en France de ces communes, de ces villages aussi désertiques ou désertifiés. Avec vous, Jérémy Pelletier, l'État a longtemps été planificateur. Aujourd'hui, les citoyens, les maires se rassemblent, se mobilisent pour faire ensemble sans plus rien attendre des services publics. Hein. Il y a des initiatives locales et de plus en plus, ça pullule, j'allais dire.
Alors, c'est certain. Est-ce qu'ils attendent plus rien de l'État? Je ne sais pas. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'ils ont pris conscience que leur salut passera par leur propre action et par leur action personnelle. Vous l'avez dit, il y a deux types d'initiatives. Il y a d'abord l'action des élus locaux, qui sont des personnes formidables, à commencer évidemment par ici. Beaucoup de maires achètent des locaux, notamment commerciaux, pour ensuite les louer à très peu cher, pour justement redynamiser la vie dans leur commune. Vous avez même des initiatives, notamment en Sarthe, dans une petite commune de Sarthe, où un maire a racheté une station-service pour permettre à ses concitoyens de pouvoir encore faire le plein de leur voiture. Et ensuite, vous avez les citoyens de deux types. Un exemple, beaucoup, notamment d'écoles de conduite de petites zones rurales, ont communiqué pour inciter les urbains à venir justement passer le permis de conduire chez elles, expliquant qu'ils auraient des dates pour passer le permis de conduire beaucoup plus rapidement, quitte ensuite à ce que les individus en question s'installent. Et après, vous avez les citoyens, effectivement, qui se réunissent très souvent en collectif, et notamment un certain nombre qui luttent très souvent contre l'étalement urbain.
Oui, et beaucoup de maires aussi ruraux de France qui s'attellent à la lutte contre l'électronisme, c'est-à-dire la grande difficulté avec les outils numériques. Ça, on va en parler dans un petit instant. Est-ce que c'est le cas à Uny? On posera la question aux citoyens qui sont avec nous ce soir. Je voudrais qu'on prenne nos téléphones. Patrick Aquet, bonsoir monsieur.
Oui, bonsoir.
Bonsoir, vous êtes propriétaire de locaux commerciaux à Guéret, un peu plus loin, c'est dans la Creuse, c'est pas tout à fait la même température. Vous, je crois que vous louez à 1 euro la première année ces locaux pour redynamiser le village, c'est ça?
Alors, déjà Guéret, c'est la préfecture de la Creuse. Oui. Et on a une belle rue ancienne ou une rue commerçante traditionnelle et historique. C'est désertifié depuis plusieurs années. Les grandes enseignes sont parties en périphérie. Donc moi, j'avais plusieurs locaux avec des grandes enseignes de téléphonie et de prêt-à-porter. Et j'ai alerté il y a 4 ans les pouvoirs publics en disant que ça commençait à diversifier, désertifier et l'extérieur se diversifier en attaquant le centre-ville directement, en prenant les enseignes du centre-ville à l'extérieur. Donc voilà, les pouvoirs publics m'ont écouté, étaient prêts à faire quelque chose, mais la réaction d'une mairie et des pouvoirs publics locaux sont plus longs que la réaction commerciale de grandes enseignes.
Ah oui, c'est deux poids deux mesures.
Le temps de mettre en place tout ça, moi j'ai pris il y a 6 mois le taureau par les cornes, et j'ai dit, puisque dans les discussions, auprès d'associations ou de réunions pour essayer de redynamiser tout ça, à chaque fois on disait le problème, moi je disais c'est les parkings, c'est X ou Y, on me disait toujours le problème c'est le loyer. En tant que bailleur, on vous disait toujours le problème c'est le loyer. Ouais. Donc arriver à 1 euro, je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus.
Ouais, c'est sûr. Donc, combien vous avez de clients aujourd'hui? Pardonnez-moi rapidement, combien vous avez de clients aujourd'hui et comment vous voyez la suite?
Alors, j'ai déjà le premier local qui s'est loué avant les fêtes.
Ouais.
Ça a très bien démarré.
D'accord.
Sachant que moi, je les aide la première année, ils sont à 1 euro. Vous avez une aide de la municipalité qui s'est mise en place parce qu'une fois que j'ai mis ça en place, la mairie a accéléré les choses. Mmh. Elle était partie prenante, mais elle a pu accélérer grâce à mon action. Mmh. Donc, une première personne. Maintenant, il nous reste 2 grandes surfaces où là, c'est un peu plus compliqué. Donc on regarde les dossiers, on essaye d'avoir des dossiers qui sont à long terme, et surtout ce qui se passe c'est qu'on fait la première année à 1 euro, la deuxième année on va être à peu près à 30%, un tiers.
D'accord.
La troisième année, donc on arrive,
et on va s'arrêter là.
Là on arrivera à peu près aux 2/3 du prix du loyer. Pour arriver la quatrième année, c'est important, c'est commercialement, quand vous louez un local, vous avez des beaux 3, 6, 9. Donc, au bout de la troisième année, le locataire peut sortir sans frais.
Merci. D'accord. Merci beaucoup, Patrick Eke. Je pense qu'on a fait le tour, là, à peu près, en tout cas. Merci à vous. Voilà une des initiatives très concrètes. Et vous le disiez, d'ailleurs, Jérémy Pelletier, voilà comment ça se passe en ruralité aujourd'hui, avec des initiatives à la fois des élus locaux et à la fois des citoyens eux-mêmes qui se bougent très clairement. On va parler santé maintenant. On va parler de ces communes où les déserts médicaux sont une véritable réalité. Pas de médecins ici à Uny, mais c'est un peu le cas aussi dans beaucoup de zones en France, même en région parisienne, qui est la zone la plus désertique en termes de médecins. On accueille Jérôme Ovitti. Bonsoir, vous êtes médecin généraliste ?
Oui.
Généraliste. Bonsoir. Et Laura Cridel, bonsoir à vous. Vous êtes interne. Vous venez de vous installer, je crois, dans la région ?
Non, pas encore. Je suis,
pas encore. Non. Ça ne saurait tarder.
Ouais, voilà.
D'accord.
Dans deux ans à peu près.
Dans 2 ans à peu près. Jérôme Ovitti, comment on fait pour. Comment ça se passe et qu'est-ce qui a fait que vous avez atterri ici, là, dans la région ?
Effectivement, la réponse, elle va être très simple. Moi, je suis né ici.
Ah voilà.
Je suis né ici. Ma famille est ici. J'ai rencontré mon épouse ici. Donc
c'était une évidence.
C'était une évidence de rester ici.
Pourquoi autant de médecins ? Alors, je vous pose la question à l'envers. Pourquoi autant de médecins refusent de s'installer dans ce qu'on appelle les déserts médicaux ?
À mon avis, pour 2 raisons essentielles. La première, c'est d'avoir peur d'avoir trop de travail et de plus avoir de vie privée. Et la deuxième, c'est que souvent pendant leurs études, ils font leur vie privée dans la ville où ils ont eu leurs études et ils ne reviennent pas forcément. Chez nous, c'est Nancy, la faculté la plus proche. Et j'ai beaucoup de collègues internes qui étaient d'ici. Ils ont rencontré leur femme, leur mari là-haut. Et forcément, ils n'ont pas forcément envie de revenir.
Vous, ça ne s'est pas posé?
Moi, ça ne s'est pas posé.
Vous allez nous dire dans un instant combien d'heures vous travaillez par jour, combien de patients à peu près, si vous êtes exsangue, si ça devient insupportable. On va faire le tour de cette question qui est évidemment prépondérante dans ces déserts médicaux avec vous aussi, Jérémy Pelletier. À tout de suite, à Uny, en Meurthe-et-Moselle.
Vous écoutez Nathalie Lévy jusqu'à 20h sur Europe 1.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Et c'est la 4e étape de ces éditions spéciales consacrées aux élections municipales avec vous, Nathalie Lévy. Jusqu'à 20h, vous êtes en Meurthe-et-Moselle, à Uny, avec votre invité spécialiste Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. Et avec vous, on parle des déserts médicaux et de la fracture numérique.
Oui, Jérôme Ovitier, médecin installé là, dans la région, bien sûr, à quelques centaines de mètres de là où nous nous trouvons. Et Laura Cridel est interne. Elle va s'installer là, si tout va bien. Elle travaille déjà avec Jérôme dans son cabinet. Elle va s'installer aussi dans la région. Je vous posais la question, et on va faire un tour d'horizon avec vous, Jérémy Pelletier, dans un instant. Je vous posais la question, Jérôme Ovitier, du nombre de patients par jour. Ça donne quoi ?
Alors, sur l'été, on va dire plutôt une trentaine, et sur l'hiver, 40. Après, c'est variable d'un médecin à l'autre. Il y en a qui en voient plus que moi.
Ça donne quoi ? Ça donne une journée de combien d'heures ? Parce que du coup, c'est quoi ? C'est 20 minutes par patient à peu près ?
On est obligé de réduire le temps consacré à chaque personne. On est obligé de réduire. Normalement, je consacre 15 minutes par patient. Et quand il y a trop de monde, on est obligé encore de réduire ce temps-là.
Donc, vous commencez à quelle heure et vous terminez à quelle heure votre journée ?
Moi, je la commence assez tard. Moi, je la commence à 9h ma journée.
Ah oui, ça va. Et vous arrivez à finir
à 18h30 quand même.
Ah bon, oui, quand même. Bon, en tout cas, c'est très rythmé.
C'est d'avoir une organisation qui permet de pouvoir avoir une vie à côté.
C'est ça. Et Laura, vous travaillez aujourd'hui, vous êtes formée par Jérôme.
C'est ça.
Voilà. Et quand vous voyez le rythme, la cadence, qui est quand même soutenue, vous dites quoi ? J'y vais ?
Ben, après, forcément, c'est un rythme qui est connu depuis plusieurs années. Donc après, en voulant m'installer dans la région, je savais à quoi m'attendre. Après, comme dit Jérôme, c'est une question aussi d'organisation et de...
Donc ça ne vous fait pas peur ?
Non.
Ça ne vous fait pas peur. Arthur Mbaché, et puis évidemment, avec vous, Jérémy Pelletier, un point d'étape.
Alors, il y a un changement sur le numerus clausus là, qu'a annoncé le gouvernement. Est-ce que vous voyez les effets ? J'imagine que non, ça prend du temps.
14 ans, je crois.
Les effets, ça va prendre une dizaine d'années pour les voir, le temps que les nouveaux médecins sortent.
Ah oui, c'est ça, parce que le temps des études, plus ensuite le temps de l'installation, on ne devrait pas...
Après, on verra une différence. Après, j'espère qu'on verra une différence positive, même sur les secteurs les moins favorisés.
Mais vous dites qu'on la verra, cette différence, d'après vous ?
J'espère bien, j'espère bien.
Jérémy Pelletier, près de 6% de la population française vit dans un désert médical. Aujourd'hui, c'est à peu près 4 millions de Français. Comment on explique cette étendue ? Pourquoi ils s'étendent encore, ces déserts ?
Alors, peut-être rappeler du coup ce qu'est un désert médical, c'est le fait d'avoir moins de 5 médecins pour un rayon de 10 000 habitants. Alors, pourquoi ils s'étendent, ces déserts ? On a commencé à en parler. Il y a un phénomène aussi que tout le monde connaît, c'est qu'on a eu un nombre de départs à la retraite assez important de médecins au cours des dernières années et qui n'a pas été remplacé, effectivement, par le nombre de médecins formés. Et vous venez de parler du numerus clausus. Je pense que c'est évidemment un phénomène important. Après, je voulais rebondir aussi sur ce que vous disiez tout à l'heure sur le fait que c'est difficile pour des médecins justement de venir s'installer en zone rurale pour, je dirais, la dureté du travail, le fait d'avoir trop de travail. Je pense qu'il y a aussi un sujet qui est central, c'est le fait d'être dans un endroit, d'être dans un environnement qui vous permet de jouir, je dirais, de la société des loisirs dans laquelle on est. Et ça, je pense que c'est un élément central. Et d'ailleurs, j'aimerais vous interroger sur qu'est-ce que vous pensez de la proposition d'obliger les internes à venir faire leur stage justement dans les zones rurales, parce que vous l'avez fait de votre plein gré, c'est pas le cas de tous.
Alors, Laura Cridel.
Alors, c'est vrai que moi, je ne me sens pas vraiment concernée par rapport à ça, comme c'était mon propre choix et que ce n'était pas forcément par dépit. Après, comme on en parlait avec Jérôme cet après-midi, l'obligation d'installation dans les zones sous-dotées en médecins, ça serait... Déjà, il y aurait toujours des moyens de contourner. Donc, comme il y avait le cas Jérôme, le médecin n'est jamais venu, il est parti en Allemagne, c'est ça ?
En Allemagne, oui.
Ouais, en Allemagne. Et puis voilà, venir forcer des médecins à s'installer contre leur gré par rapport aux patients, au suivi des patients, je trouve que c'est pas forcément le...
C'est pas la solution nécessaire.
C'est pas la solution.
Après, Jérôme, pour les étudiants, obliger les étudiants à faire un stage, l'idée n'est pas mauvaise, mais derrière, est-ce qu'ils vont y aller par dépit et du coup ne pas rester par la suite ? Laura est venue par choix, il y a des chances qu'elle reste. Si elle était venue par dépit, je ne suis pas sûr qu'elle serait...
Ça aurait pu la refroidir.
Et elle serait partie après.
Autre aspect, parce que bien sûr, on parle de beaucoup de télémédecine aujourd'hui, on va y venir dans un instant. Quand un cas, Jérôme, docteur Ovitti, un cas nécessite une spécialité, comment vous procédez en termes de maillage territorial ? Parce qu'elle nous disait tout à l'heure, Amanda, 6 mois, je crois, pour avoir un rendez-vous chez un dermato.
Dermato, c'est 6 mois. Ouais. Ophtalmo, c'est 6 mois, 1 an.
6 mois, 1 an.
Cardio, c'est 3 mois à peu près. Ça, c'est pour les principaux délais. Après, on est obligé de trier. On a son réseau de professionnels qu'on connaît. Et quand c'est urgent, on les appelle et on s'arrange avec eux directement. Et ils se surchargent pour pouvoir prendre la personne. Mais on est obligé de faire un tri, en fait. Après, c'est vrai que moi, j'ai des patients âgés qui, des fois, me disent « Ah, ben, je vais aller en vacances dans le sud, et puis je vais voir mon ophtalmo, mon dermato, ça me prend une semaine
à l'occasion d'un déplacement. »
Voilà, c'est... Il y en a qui font, il y en a certains pratique. Qui font ça.
Mais on va parler de la télémédecine dans un petit instant. Est-ce que vous y êtes favorable? On va faire le point aussi avec vous, Jérémy Pelletier. Et puis ces maisons de santé qui se développent, est-ce que ça peut être une possibilité ici à Uni? On vous pose toutes ces questions dans une seconde à Uni, en Meurthe-et-Moselle, où nous sommes en édition spéciale jusqu'à 20h.
Vous écoutez Nathalie Lévy sur Europe 1, c'est votre grand journal du soir.
Municipal 2020,
édition spéciale sur Europe 1.
Il est 19h30 sur Europe 1. Vous écoutez Nathalie Lévy.
Avec votre rappel des titres, Isabelle Millet.
Et l'Europe a passé aujourd'hui le cap des 500 décès liés au coronavirus, avec 97 nouveaux morts en Italie, où les médecins n'ont plus les moyens de soigner tout le monde. Ils se préparent à trier les malades. L'Italie qui ferme ce soir toutes ses stations de ski. De son côté, Israël impose la quarantaine à tous les voyageurs qui entrent sur son territoire. En France, le nombre de décès est passé ce soir à 25 412 cas confirmés. Affolement sur les marchés, conjugué à la baisse des prix du pétrole. Cette crise provoque un krach boursier. Ça baisse absolument partout, notamment à Paris. Deuxième plus forte baisse de l'histoire du CAC 40. Un plongeon à deux chiffres même pour l'Italie. Milan s'effondre de 11%. Afin que les personnes les plus fragiles, les personnes âgées notamment, puissent voter pour les municipales, les directeurs d'EHPAD pourront être habilités à recueillir les procurations. PSG Dortmund en Ligue des Champions après-demain se jouera sans spectateurs à huis clos, tandis qu'en rugby, le match du tournoi des Six Nations France-Irlande est reporté à l'automne. Et puis Madonna annule ses deux derniers concerts en France. La météo, Anissa.
Avec de la pluie. De la pluie, beaucoup de pluie demain. Isabelle, c'est un temps très perturbé sur le nord Pas-de-Calais, les Ardennes, la Lorraine, l'Alsace, la Franche-Comté, les Alpes, la vallée du Rhône, le massif central, le Limousin, la région parisienne, les pays de la Loire, la Normandie, la Bretagne, le centre-val de Loire, vous l'avez compris. Sur les trois quarts nord du pays, demain, le ciel est très gris avec des averses assez fréquentes. C'est à l'est qui va le plus pleuvoir demain avec des pluies assez soutenues. Au nord de la Loire, le vent se rajoute à la pluie avec des rafales jusqu'à 70 km/h. En Gironde, sur les Landes et le Lot-et-Garonne, et bien là, le temps sera couvert, mais dans l'après-midi, vous aurez la chance de voir le soleil. Et c'est au sud, des Pyrénées jusqu'à la Côte d'Azur, que la journée sera la plus belle, même sur la Corse, avec un ciel dégagé et un soleil très généreux. Les températures demain matin sont stationnaires. 4 à 8 degrés en moyenne dans la matinée, 4 à Strasbourg, 8 pour Paris.
Europe 1.
La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec une édition spéciale à l'occasion de ces élections municipales. Nathalie Lévy, vous êtes à Uni en Meurthe-et-Moselle avec vos nombreux invités autour de la table et votre spécialiste qui est là, qui nous éclaire sur les déserts médicaux, la fracture numérique. Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès.
Oui, avec nos invités, vous l'avez dit, Anissa, dont un médecin et une interne qui sont là autour de notre table, ce studio ce soir installé au Resto-Bar en plein cœur d'Uni qui ouvrira dimanche ses portes officiellement. Et bien sûr, l'actualité en ce moment, ça ne vous a pas échappé, c'est le coronavirus, bien sûr le Covid-19. On en parlait avec Isabelle Millet. Je voudrais vous poser la question, docteur Jérôme Ovitti, parce qu'on parle de 11 cas désormais en Meurthe-Moselle. C'est vous, Arthur Mbaché, qui me le précisez à l'instant. Vous êtes notre correspondant européen dans la région. Comment vous faites face, vous, à cela depuis fin janvier quasiment?
Pour le moment, sur le secteur, on n'a pas encore été très concerné. Donc on n'a pas eu beaucoup de cas, on a eu quelques suspicions. On a récupéré les masques du stock d'État. Donc quand on a un patient qui est suspect, on lui met le masque et nous on se protège également. Après, on envisageait la possibilité, on a testé ce matin, de faire la téléconsultation pour les gens qui étaient susceptibles d'être contaminés. Donc on a commencé à faire quelques expériences ce matin.
Ça a été probant.
C'est probant pour le moment. Il faut encore qu'on peaufine ça sur la semaine pour essayer de trouver un système afin que les patients à risque ne se retrouvent pas avec des patients pas malades, mais qui sont susceptibles de présenter des facteurs d'aggravation.
Bien sûr. Laura Cridel, vous qui êtes interne, donc pas encore installée, ça ne vous fait pas peur? Jérôme nous disait « on », mais vous n'êtes finalement pas encore, j'allais dire, vraiment dans le cœur du métier. Le coronavirus, c'est nouveau, un virus tel.
C'est nouveau. Après, voilà, nous, on protège les patients, on se protège nous. Et puis...
La mission avant tout.
Oui, voilà, c'est ça.
La télémédecine, parce qu'on en parlait, Jérémy Pelletier, juste avant d'écouter le rappel des titres d'Isabelle Millet. La télémédecine, aujourd'hui, est-ce que c'est véritablement une solution pour contrer ces déserts médicaux?
Alors, ça peut être une solution. Sauf qu'il ne faut pas oublier que notamment en France, les questions de santé, les questions de médecine, et on le voit en ce moment avec le coronavirus, font partie des sujets les plus anxiogènes, font partie des sujets qui alimentent d'ailleurs très souvent le plus de fantasmes. Et je rappelle juste que dans les nombreuses enquêtes qui ont été faites, notamment sur les théories du complot, celles qui arrivent en tête, ce sont toujours les complots liés à la médecine, liés à la santé, et notamment liés au vaccin. Et je pense que, évidemment, le numérique, la télémédecine est quelque chose de très bien, mais ça ne remplacera jamais la confiance que peut apporter un interlocuteur physique à la population.
Pour vous, Jérôme, c'est une aide ou un problème ?
La télémédecine, ouais, ça serait plutôt une aide. Ce n'est pas la solution idéale à tous les problèmes, mais ça peut être utile. Ça peut être utile dans le cadre de, pour avoir un avis dermato rapidement, plutôt que d'attendre les 6 mois, pour avoir un avis spécialisé rapidement. Ça se fait déjà aux urgences de l'hôpital ici avec le CHU. Et là, dans le cas du coronavirus, ça peut être utile pour éviter les contagions en salle d'attente.
Bien sûr.
Donc ça peut être plutôt positif.
On va regarder, enfin plutôt on va écouter, pardonnez-moi, c'est le réflexe. De temps en temps, ça me démange. Face aux déserts médicaux, vous nous avez signé un reportage, Arthur Mbaché, une véritable avancée. Le premier centre de télémédecine de France, il est à Oberbruck. Il a fermé ses portes en septembre dernier, après 3 années pourtant de fonctionnement. Forcément, les habitants accusent le coup.
Compresse, désinfectant, écran, webcam.
Tout ça, ça prend la poussière, c'est fermé depuis le mois de septembre.
Il y a tout ce qu'il faut dans le cabinet de télémédecine d'Oberbruck qui a tourné pendant 3 ans ici dans cette belle vallée isolée. Nous y sommes avec Jacques, le maire, et Denise, patiente qui se dit abandonnée.
Ah bah moi je suis triste, hein. Je suis triste que ça a fermé. Hein. Comme j'habite à côté, une fois j'ai eu des problèmes à l'œil, il y a eu de la neige, j'ai pas eu besoin d'aller chercher de la voiture, j'ai débarqué ici.
L'association qui gérait ne s'en sortait pas financièrement parce qu'ils étaient soutenus par l'ARS et l'ARS a arrêté l'expérimentation qui a duré 3 ans.
Pour moi, j'ai été hyper satisfaite.
Et donc, Denise, vous aviez le médecin sur l'écran qui est là.
Je sais qu'il y en avait un à Avignon parce qu'il neigeait et l'infirmière a dit on va lui envoyer une photo d'Oberbruck sous la neige parce qu'à Avignon, il n'en a pas.
On trouve des médecins, mais des médecins qui ne sont pas forcément du secteur. Or, pour que la télémédecine soit remboursée, il faut que ce soit des médecins du secteur. On est peut-être parti un peu trop tôt, mais moi je suis convaincu de cette télémédecine et que ça peut marcher.
Ça marchera, assure le maire, quand la Sécu remboursera, même avec un médecin, à l'autre bout de la France. Oberbruck, Arthur Mbaché, Europe 1.
Et Arthur Mbaché qui est avec moi ce soir dans ce studio installé au Resto Bar d'Uni. Arthur, qu'est-ce qu'on se dit sur la fermeture de ce centre et sur les process qui vont avec ?
Alors c'est important de souligner que ce matin ou hier soir, j'ai un petit doute, ce matin me semble-t-il, oui, le ministre de la Santé a ouvert la possibilité de rembourser justement des consultations de télémédecine, même si le médecin est très loin. Parce que jusqu'à présent, il faut que le médecin ait déjà vu une première fois en chair et en os le patient pour ensuite pouvoir faire des consultations à distance. Et c'est pour ça que c'est tombé à Oberbruck, parce qu'ils avaient une sorte de dérogation, ils pouvaient faire intervenir des médecins de partout en France pendant 3 ans. Paf, ça s'est arrêté. Paf, ça s'est cassé la gueule financièrement. Voilà. Donc, si le gouvernement souhaite donner cette possibilité-là, ouvrir cette porte, ça peut peut-être permettre à la télémédecine de tenir le choc financièrement et de s'installer de manière durablement plus durable et plus pérenne.
Alors, on verra si ça dure que le temps du coronavirus ou au-delà.
C'est ça.
Exactement. Dites-moi, Laura, vous qui êtes donc interne, Laura Cridel, à l'heure actuelle, vous avez observé ça sans doute dans certaines villes, notamment dans la Sarthe, c'est eux qui ont commencé. On salarie parfois des médecins avec un vrai salaire, un contrat. Est-ce que vous, ça aurait été une formule qui aurait pu vous tenter ou...
Oui, je pense qu'il y a beaucoup d'avantages à cette formule, l'avantage forcément financier, un avantage au niveau de la sécurité de l'emploi. Donc oui, je pense que c'est...
C'est compatible avec votre vision pour autant de la profession libérale.
Oui, c'est compatible parce que c'est différent, mais en même temps, ça peut se rejoindre aussi... Donc oui, non, je pense que ça peut aussi attirer.
Ça corrige un défaut majeur qui est la protection sociale des médecins, qui est une des plus pourries, on va être réaliste, hein, puisqu'on a un délai de carence, vous le citez, qui est de 90 jours quand on est malade. Donc il n'y a pas beaucoup de professions qui ont le même délai de carence. Et ça n'a pas bougé depuis X années. Et du coup, il y en a qui hésitent à s'installer parce qu'ils se disent ben, si je suis malade, qu'est-ce qui va m'arriver ? Rien, tu l'auras bien...
En tout cas, voilà, c'est comme ça. On se reparle dans un petit instant. Je voudrais vous reposer la question, Jérémy. Bien sûr, la fracture numérique, c'est un vrai sujet ici à Uni, mais un peu partout en région. On va le voir, on va l'entendre avec vos témoignages. On est à Uni en Meurthe-et-Moselle encore pendant une vingtaine de minutes. À tout de suite.
Vous écoutez Nathalie Lévy, c'est votre grand journal du soir en édition spéciale jusqu'à 20h.
Europe 1, édition spéciale municipale.
Votre grand journal du soir en édition spéciale jusqu'à 20h, Nathalie Lévy avec à vos côtés Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, Arthur M. Bachet, évidemment journaliste à Europe 1, correspondant dans le Grand Est, et avec vos invités on parle déserts médicaux et fractures numériques jusqu'à 20h.
Oui, fracture numérique, on y vient dans un petit instant parce que je sais qu'ici, quand on veut regarder un film en streaming, eh ben, on galère. Hein. Et pas qu'ici, d'ailleurs, on va en parler. Juste deux mots encore sur les déserts médicaux parce que c'est un vrai sujet aujourd'hui en France avec encore une fois 4 millions de Français qui sont concernés. Jérôme, aujourd'hui, les médecins autour de vous, quelle est la moyenne d'âge ?
La moyenne d'âge, il y a plus de médecins aux alentours de 55-65 ans sur le secteur que de médecins jeunes.
Donc vous êtes rare.
Dans 10 ans, ça va poser problème.
Oui, Laura, qui est interne, et vous, Jérôme, finalement, ouais. Vous êtes rare. Vous
dans 10 ans, ça posera un grand problème, puisque si, soit ils décident tous de travailler après leur retraite, soit ils s'arrêtent, et là, enfin, on court à la catastrophe.
Un mot, Jérémy ?
Un mot, vous disiez tout à l'heure, et vous parliez de l'innovation d'un maire sartois qui salarie justement un médecin. C'est un bon exemple pour montrer que les maires, que les élus locaux, notamment dans ces zones-là, dans ces villages-là, sont très créatifs. On est juste avant les municipales. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle, je crois, les maires, dans toutes les enquêtes d'opinion, sont les élus en qui les Français ont le plus confiance, au-delà de la très grande proximité qu'ils ont avec eux. C'est que je crois que ces élus locaux-là sont des gens très créatifs et ça le démontre à travers ce type d'innovation.
Ces municipales des 15 et 22 mars prochains, quelques 3,5 millions de personnes issues des communes pourraient se rendre aux urnes. Ce sera un bon test, évidemment. Je vous pose une dernière question à tous les deux. Que pensez-vous de cette mesure du plan Ma Santé 2022, notamment la création de postes d'assistants médicaux pour aider, pour redonner du temps médical aux généralistes libéraux? On y croit ou pas?
Moi, je ne suis pas convaincu à titre personnel, parce que ça implique, si on prend les assistants médicaux, de prendre plus de monde. Mais actuellement, mes internes font ce que fait un assistant médical en mieux.
Donc, double emploi.
Elles peuvent poser des diagnostics, elles peuvent prescrire des traitements. Elles sont plus efficaces et du coup, ça va faire doublon et ça ne me sera pas utile. Après, pourquoi pas pour des médecins qui n'ont pas d'étudiants? Ça aura peut-être un intérêt à...
Mais... Laura Cridel, n'hésitez pas à parler dans le micro.
Oui. Non, mais je rebondissais sur le fait des assistants médicaux, que voilà, autant prendre des internes, de les former. Et c'est aussi comme ça que les internes restent dans les villes, dans les villages.
Bien sûr.
Et ils sont fidélisés.
Ils sont fidélisés. Est-ce que vous refusez des patients? Et ce sera la dernière question.
Oui. Oui.
Bon, combien en moyenne?
En moyenne, on a une dizaine de patients par jour qui appellent en cherchant un nouveau médecin traitant qu'on est obligé de refuser. Après, est-ce que je refuse mes propres patients sur des consultations? Là, si on prend l'exemple de cette semaine, je sais que déjà demain, c'est complet et que mercredi sera bientôt complet. Ça peut être complet 4-5 jours à l'avance, mais ailleurs, ça peut être pire. Ça peut être plusieurs semaines à l'avance que ça peut être complet. Et ça aussi, c'est problématique.
Alors voilà ce qu'on peut dire ce soir, et on n'a pas tout dit évidemment sur les déserts médicaux, mais on voit là aussi les initiatives des maires, comme dans la Sarthe ou ailleurs un peu partout maintenant en France, qui salarient leurs médecins, ces maisons aussi, ces maisons de santé qui se développent de plus en plus, et puis la télémédecine, on l'a dit. Je voudrais aussi qu'on regarde de près, qu'on zoome sur cette fracture numérique. Les élus des petites communes rurales, comment le vivent-ils? Théophile Cossa a posé la question à Michel Fournier, maire de Les Voivres, c'est dans les Vosges, il est vice-président aussi de l'Association des maires ruraux de France. C'est maires qui poussent un cri d'alarme.
Aujourd'hui, je n'ai pas partout dans le village, et surtout dans des endroits où il y a des entreprises, la couverture nécessaire ou suffisante. Aujourd'hui, un touriste, la première démarche, c'est de voir si le territoire est couvert. Mais c'est aussi l'installation. Hein. Auparavant, quelqu'un qui voulait construire regardait si son terrain était bien exposé. Maintenant, il regarde s'il a de la couverture numérique ou pas. Hein. Cela fait des années qu'on aurait dû considérer que l'Internet, c'était comme le téléphone, que ça devait être une mission d'État, point barre. Et ça n'a pas été fait. Le vice dans cela, c'est quoi? C'est de dire, mais attendez, 97,8% du territoire est couvert. Non, non, pas du territoire, de la population. Et comme la population est quand même essentiellement urbaine, les territoires ruraux, eux, sont passés à côté. C'est un peu fatigant de toujours être considérés comme des sous-habitants. On en a un peu marre.
Michel Fournier, maire des Voivres dans les Vosges. Voilà, la fracture numérique. Vous avez les infos, vous avez évidemment les chiffres. La France, 24e sur 28 pour la 4G au sein de l'Union européenne. Comment on l'explique? Et surtout, comment on essaie d'avancer et de changer ça? A tout de suite, à Uny, en Meurthe-et-Moselle.
Votre grand journal du soir en édition spéciale, c'est jusqu'à 20h sur Europe 1 avec Nathalie Lévy.
Municipal 2020,
édition spéciale sur Europe 1.
Quatrième étape de ces éditions spéciales consacrées aux élections municipales. Et vous vous êtes arrêtée, Nathalie Lévy, en Meurthe-et-Moselle. Vous êtes à Uny ce soir avec à vos côtés de nombreux invités et un spécialiste qui vous a suivi depuis Paris. Jérémy Pelletier, directeur des études à la Fondation Jean Jaurès. On parle fracture numérique avec vous ce soir jusqu'à 20h.
Et oui, et dans ce site où on est reçu là généreusement par Amanda Gargano, gérante du resto bar d'Uny, il n'y a pas de 4G. Il n'y a pas de 4G à Uny d'ailleurs, hein, n'est-ce pas ? Le maire me le confirme, les habitants également, pas de 4G. Arthur Mbaché, vous avez discuté avec le maire d'Uny. Vous allez nous dire ce qu'il nous dit dans un petit instant. Jérémy, simplement, parce que vous êtes aussi directeur des études à la Fondation Jean Jaurès, notre expert Jérémy Pelletier, la France 24e sur 28 pour la 4G au sein de l'Union européenne. 100% des services publics qui seront dématérialisés d'ici 2 ans. Comment on va faire ? Comment ils vont faire à Uny ? C'est une vraie bombe à retardement.
Vous avez raison, c'est un vrai sujet. En fait, je crois que le sujet, c'est qu'on pense que tout le monde est connecté, que finalement, ce n'est plus un sujet, que le sujet des inégalités, ce n'est plus un sujet lié aux inégalités d'accès, mais un sujet lié aux inégalités d'usage. Vous savez, le débat public, maintenant, on parle beaucoup du numérique comme devant nous faire utiliser beaucoup moins nos outils numériques. On doit avoir un usage modéré, etc., du numérique. Or, il reste un sujet, évidemment, d'accès, d'inégalité d'accès. Vous avez 500 centres-bourgs aujourd'hui qui sont en zone blanche. Beaucoup aujourd'hui parlent de 5G. On a 60% seulement du territoire qui a la 4G. Donc évidemment, c'est un sujet qui contribue à l'isolement de ces territoires et au manque d'attractivité de ces territoires.
Alors, le gouvernement a lancé il y a 7 ans le plan France très haut débit pour plus de 20 milliards d'euros d'investissement pour couvrir en 2022 tout le territoire en fibre optique. Arthur Mbaché, qu'est-ce qu'il vous dit, le maire d'Uny, Robert Bourguignon, qui brigue d'ailleurs un 7e mandat et qui nous rejoint là dans un instant. Qu'est-ce qu'il nous dit? Et puis il va compléter le temps de s'installer.
Déjà, première bonne nouvelle, on n'est pas dérangé par nos téléphones.
Ah, ça, c'est l'émission,
ça c'est vrai. Non, ce qui est intéressant pour cette commune, c'est que donc il manque un pylône. Il manque un pylône pour que tout le monde puisse avoir la 3G et la 4G sur son portable. La commune est en 27e position du classement des villages mal connectés dans le département. 27e position. Or, on a un rythme de plantage de pylônes de 4 par an. Donc ça nous amène à une perspective de 5, 6, 7 ans pour avoir ce fameux poteau. J'imagine, monsieur le maire, vous allez peut-être me le confirmer. Ce qui est compliqué, c'est que les habitants, c'est vous qui viennent voir, c'est vous qui engueulent, non ?
Ah oui, ils pensent que le maire a toutes les compétences, donc ils viennent me voir. Donc actuellement, on est en train de faire une pétition qui a été signée par une bonne partie de la population pour avoir un poids par rapport à nos interlocuteurs qui sont l'État, le département et les opérateurs. Et les 2/3 des foyers sont venus signer cette pétition, ce qui prouve un vrai besoin. On a beaucoup de maisons où on n'arrive pas à téléphoner de l'intérieur de la maison. On doit sortir pour avoir téléphone. Et la situation, en plus, s'est dégradée depuis 6 mois, 1 an, parce
Pourquoi
qu'il y a de plus en plus d'utilisateurs. Ouais. Et les utilisateurs sont pénalisés par cette augmentation.
Et pourquoi le compte n'y est pas ? Qu'est-ce que vous avez comme explication, monsieur le maire Robert Bourguignon, qui briguait, vous êtes candidat unique, hein, vous briguez un 7e mandat.
Le compte n'y est pas, mais cette compétence, ce n'est pas une compétence du maire, hein, c'est une compétence de l'État.
Bien sûr.
Il y a un plan qui est fait normalement pour venir aider la ruralité. On en entend parler, ça s'appelait le New Deal, je crois.
Oui, pareil.
Et ça se traduit, la réalité, c'est que ça se traduit très faiblement. On ne voit pas avancer la chose. Donc c'est vrai, un vrai problème. On a beaucoup d'habitants qui travaillent au Luxembourg, qui ont besoin que ce soit de la couverture mobile ou de l'Internet. Et on a un vrai souci avec cette couverture. Autant tout à l'heure sur le transport, c'est un peu différent parce que c'est très difficile de répondre à des problèmes de transport sur une petite commune rurale. On ne peut pas avoir un bus tous les 2 heures qui ne répondra pas. Il faut aussi rentabiliser. Mais sur la couverture mobile et l'Internet, c'est un vrai souci. Alors sur l'Internet, la région Grand Est est en train de s'avancer. Avec la communauté d'agglomération, on est en train de financer la couverture Internet.
D'accord.
Sauf que la région qui devait nous servir entre 2020 et 2021 a déjà au moins 1 an de retard. Donc ouais. Les délais s'allongent.
La région Grand Est, qui connais bien, quand même vraiment précurseur sur tout ce qui est fibre.
Qui a travaillé sur.
Alors, il y a deux choses, parce qu'il y a l'aspect géographique, on l'a dit, on vous a entendu. Jérémy Pelletier, il y a aussi l'aspect inclusion numérique dans le sens... il ne faut pas rester en reste quand on est équipé. Après, comment on fait quand on n'a pas de connaissances dans le numérique ? Parce que c'est aussi une vraie problématique aujourd'hui. Les démarches administratives, elles vont se faire de plus en plus, on l'a dit, en ligne. Par exemple, sa carte grise, c'est uniquement en ligne. Aujourd'hui, Pôle emploi, c'est 20 à 45 minutes pour s'inscrire sur le site et demander un rendez-vous. Tout le monde n'est pas formé, tout le monde ne sait pas utiliser un ordinateur.
Absolument, il y a des sujets de compétences. Sur 65 millions de Français, on considère qu'il y a 60 millions d'internautes. Et dans les 5 millions restants, vous avez à peu près 4,5 millions, effectivement, qui a un problème lié à la compétence. Souvent des personnes âgées, effectivement, mais pas que. Ça peut être ici des quarantenaires, des personnes d'une cinquantaine d'années, effectivement, qui ne sont pas formées. Un certain nombre de communes ont mis en place des systèmes de formation, etc., dans un certain nombre de locaux, dans un certain nombre d'espaces dans la commune pour justement former à ces compétences-là qui ne sont pas des compétences innées pour une partie de la population.
Comment vous faites, monsieur le maire, justement ? Est-ce que vous luttez contre ce qu'on appelle l'électronisme, c'est-à-dire cette grande difficulté avec les outils numériques ? C'est prévu.
Il y a 2-3 ans, on a fait une formation pour les personnes âgées. Mais elles sont fragilisées par rapport à ces techniques. Elles ont même peur de
elles
faire
peur,
une formation parce qu'elles se sentent complètement incompétentes. Donc, il y a des personnes qui ne viennent pas malgré les formations qu'on leur offre. Elles restent dans
il faut sécuriser aussi donc,
voilà,
les démarches.
Dans ces problématiques.
Là, on pourrait imaginer qu'ici, au Resto-Bar d'Uni, qui va ouvrir dimanche, il y ait des formations.
Oui, bon, on a peut-être plus facile à la mairie parce qu'on a quand même plus le matériel, on a les ordinateurs. Donc, on avait fait cette formation avec des conseillers municipaux bénévoles qui avaient organisé cette formation.
Juste un dernier mot pour clôturer, Jérémy Pelletier. Ça fait partie, là, à la veille, à 6 jours du premier tour des élections, ça fait partie des questions cruciales de ces municipales, aussi la fracture numérique.
Alors, monsieur le maire l'a dit, évidemment, ça ne participe pas du rôle et de la compétence du maire, mais en tout cas, dans le sentiment, dans le ressentiment d'un certain nombre de citoyens quant à la capacité d'écoute des responsables politiques et notamment du gouvernement quant à ce qu'est leur réalité du quotidien, oui, effectivement, c'est un sujet central qui correspond au sentiment d'isolement ou non dans une commune.
Merci à tous en tout cas d'être venus. Arthur Imbaché en 10 secondes.
On peut faire le lien entre le dernier sujet et l'avant-dernier sujet. Si on veut de la télémédecine de qualité,
il va falloir de l'internet de qualité, bien sûr. Merci à tous en tout cas d'être venus ce soir autour de cette table installée ici dans ce resto-bar d'Uni. Merci de nous avoir accueillis. Merci pour vos points de vue, vos éléments de réponse aussi pour nous permettre de découvrir un peu mieux cette France, ces communes rurales. Émilie Mazoyer, c'est
bonsoir,
à vous.
Bonsoir, salut
instants.
Tout le monde
bonsoir.
À Uni. Merci, c'était cool. C'était cool de passer ce moment avec vous. Et alors nous ce soir, écoutez, je me suis dit que la musique pouvait nous faire du bien en ces temps compliqués. Alors on va accueillir un des groupes les plus sympas de la scène française ce soir. C'est les Négresses Vertes. Un coffret, une tournée anniversaire avec des concerts pas annulés. Pour ceux qui arrivent, en tout cas, les Négresses Vertes invitées ce soir de musique sur Europe 1.
Voilà l'été, un peu d'été, un petit bout d'été chez vous ce soir, Émilie Mazoyer. Nous, il ne fait pas de super terrible là.
Je me doute.
On verra au retour à Paris.
Ça ne nous ferait pas de mal. Non, ici aussi, c'est dégueulasse.
Bon, d'accord, alors on ne rentre pas. On reste ici à Uni. Merci, Émilie, à tout de suite. Merci à tous de nous avoir suivis ce soir pour cette édition spéciale. Merci à Jérémy Pelletier de nous avoir accompagnés depuis Paris. Uni, on vous dit à très bientôt. On suivra de près, bien sûr, la suite des événements ici et un peu partout en France. Retour demain à Paris pour votre grand journal du soir. Très belle soirée à tous. Restons ensemble, Anissa, pour écouter Le Monde Changer.
Évidemment, à demain. C'était Nathalie Lévy sur Europe 1.